Chaque dimanche matin sur ma chaîne YouTube Grand Angle, une interview d'une personne avec un parcours extraordinaire qui nous inspire. Vous pouvez aussi écouter le podcast sur grandangleecho.com/podcast. Allez, c'est parti. Christelle Gimaret, bonjour.
Bonjour Richard.
Je suis très content de te recevoir ici sur ce podcast parce que tu es une entrepreneuse et on reçoit beaucoup de gens sur ce podcast parce qu'il y a beaucoup de façons de réussir et d'entreprendre. Mais j'ai quand même toujours mon petit faible pour les patrons. et ta boîte, s'appelle EcoClean. C'est une réussite et sous plein de formes différentes. Et du coup, je voulais que tu nous expliques le concept EcoClean parce qu'on est dans le ménage. Et le ménage, on en a une idée vieillotte tous, pour ceux qui ont travaillé un peu dans les bureaux. C'est-à-dire qu'on fait sa journée de 8h à 18h ou 20h quand on est cadre. Et puis après, il y a la femme de ménage qui arrive, on la croise vite fait quand elle prend la poubelle avant de commencer, quoi. C'est un peu ça le... Et puis au final, c'est ce qu'on appelle les invisibles. Et d'ailleurs, il y a la série Lupin où ils en parlent dedans, où le gars, il se déguise en homme de ménage pour que personne le voit, quoi. Donc, c'est vraiment ancré. Et toi, tu t'es dit à un moment, mais en fait, ça marche à l'envers, ça déconne, ça peut pas y aller comme ça. Moi, je vais disrupter, on va dire, le ménage pour faire différemment. Alors, c'est quoi différent chez EcoClean?
Alors, déjà, la différence, déjà, elle était un peu portée par moi, parce que tout à l'heure, tu disais, t'es entrepreneuse. Et moi, je préfère le mot entrepreneur. Et je trouve que c'est important de s'approprier un vocabulaire qui est une ligne de conduite, en fait. Donc, forte de ça, parce qu'en général, quand j'ai une idée, je suis pas obtus, mais je fais en sorte qu'elle puisse se réaliser. Donc, effectivement, moi, quand je voyais, ce qui se passait dans le ménage, à imaginer que les gens, peut-être que dans leur esprit, c'est pas peut-être aussi poussé que ce que je vais dire, mais grosso modo, comme tu disais, on fait son travail, on est dans une tour de la Défense, et puis la nuit, il y a des petites fées qui viennent, et puis tout se nettoie comme par magie, et le lendemain matin, j'arrive, mon bureau est nettoyé, ma poubelle est vidée. Je ne sais pas qui a fait, d'ailleurs, c'est peut-être même pas une intervention humaine, je pense que c'est de l'ordre de l'incantation, voilà. Voilà, donc là, ça, je me suis dit, non, stop, ça, c'est pas possible, parce que derrière, il y a des hommes et des femmes qui ont, comme nous, des familles, des enfants, des amis, et puis, moi, je trouve que la nuit, je suis beaucoup mieux dans mon lit que derrière mon clavier, donc je me suis dit, pourquoi les hommes et les femmes de ménage seraient pas aussi dans leur foyer, auprès de leurs enfants, de leur famille, pourquoi ils n'auraient pas des dîners le vendredi soir comme nous, voilà. Donc, je suis allée voir quelques futurs clients, quelques prospects, en leur disant, si on fait de la pédagogie là-dessus, est-ce que ça vous intéresse? Et en fait, c'est un sujet dont beaucoup se sont emparés en disant, mais oui, enfin, t'as raison, en vrai, on n'y avait pas pensé, mais c'est juste inhumain, en fait, ce qu'on leur impose. Donc, c'était un petit peu expérimental au début, parce que quand t'as 3-4 clients, on est plus sur de l'expérimentation que sur de la scalabilité, mais... N'empêche que ça a pris, et surtout, la vie de ces gens, ce qu'on appelle nous, chez EcoClean, on les appelle des cleaners, parce qu'on écrit EcoClean qu'avec des K, donc des cleaners avec des K, des clients avec des K. Et en fait, ils se sont rendus compte que l'homme de ménage ou la femme de ménage, enfin le cleaner en l'occurrence, il mord pas. Quand on lui dit bonjour, il répond, il peut même être sympa. Peut-être très con aussi, mais comme dans n'importe quel métier. Mais en tout cas, ça se passe bien. Et puis, quand tu sais pour qui tu nettoies, tu veux lui faire plaisir, surtout si la relation instaurée est bonne. Et puis quand toi, tu sais qui nettoie, en général, tu rends moins sale ton bureau, en fait. Typiquement, le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est, tu sais, on l'a tous fait, tu sais, on a une feuille de papier, puis on la jette, puis on joue au basket avec la poubelle. Le truc tombe à côté. Honnêtement, tu sais pas qui nettoie, tu t'en fous. 9 fois sur 10, tu te lèves pas, et puis tu le laisses par terre. Quand tu sais que c'est John ou Petra ou Rachida qui va nettoyer et que tu l'aimes bien, tu te lèves et tu remets le papier dans la poubelle. Et ça, c'est des petites attentions qui font que ça se passe beaucoup mieux. Donc forcément, t'as une efficacité et une satisfaction sur le travail rendu qui est supérieure à la moyenne.
En fait, si on refait l'histoire, quelque part avant, on a sorti le personnel ménager des horaires de bureau pour dégager la place. En gros,
pour surtout pas les voir. Ouais, surtout pas les voir.
Oui, puis pas être embêté. On se dit, s'il y a quelqu'un qui commence à passer l'aspirateur quand je suis au téléphone, ça va me gonfler.
Ouais. Ça va me gonfler. C'est ça.
Et puis, comme beaucoup, on est peut-être en train de trouver un équilibre en disant, ouais, bon, effectivement, l'aspirateur, il y a peut-être moyen de s'arranger. Tu nous diras comment ça se passe. Mais s'il fait les carreaux, qui ça dérange. Et puis la fameuse dimension humaine, qui, alors, j'aime pas trop ce terme-là parce que c'est trop. On en parle trop de la dimension humaine. Ça veut tout et rien dire. Mais dans ce cadre-là, c'est vraiment, tiens, quand je connais les gens. Il y a vraiment, on s'adapte en fait les uns aux autres. Et du coup, je fais attention à mon environnement si je sais que ça impacte quelqu'un. Mais si c'est magique, si on voit
c'est
pas,
ça.
on est moins tenté quoi.
Mais c'est exactement comme dans ton immeuble. Dans ton immeuble, le voisin que tu détestes, dès qu'il fait le moindre bruit, limite t'appelles les flics. Alors que si tu l'aimes bien, tu montes et puis tu dis, est-ce que tu peux baisser le ton? Et 9 fois sur 10, il va baisser le ton. Ben là, c'est la même relation en fait. Si tu connais la personne qui fait le ménage, eh bien en général, tu vas faire en sorte que ton plan de travail soit déjà rangé pour qu'elle puisse nettoyer de façon plus facilement. Enfin, et pareil, si elle te connaît ou si lui te connaît, parce que nous on a la particularité d'avoir plutôt des mecs de ménage que des femmes de ménage, parce qu'on s'est dit que les hommes faisaient aussi bien le ménage et qu'il n'y a pas de raison que ce
C'est-à-dire
soit.
C'est-à-dire qu'avant c'était, on préférait recruter des femmes plutôt que des hommes, ou alors c'est toi qui allais chercher des bonhommes? Comment
non,
ça marche?
Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que nos premiers cleaners étaient des hommes, et puis comme chez nous, ça.
Mais pourquoi?
Bon, c'est le hasard qui a D'accord. fait ça. Parce que moi, mes premiers cleaners, je les ai recrutés dans la rue. C'est-à-dire que j'allais voir les laveurs de carreaux et je les regardais, je les observais. Je me disais, tiens, lui, lui, il travaille comme un porc, c'est pas la peine. Par contre, lui, c'est bien, il s'attache aux détails, etc. Donc, je lui donnais ma carte de visite. Je lui dis, voilà, si tu cherches des heures en plus, appelle-moi.
Ah, les mecs qui font les carreaux à l'extérieur
c'est
des
ça.
Immeubles.
Ouais, c'est
donc
ça.
C'est plutôt
les
des
vitrines,
bonhommes.
Etc. Donc, c'est plutôt des mecs.
Ouais.
Et puis, comme je leur ai dit, voilà, ça t'a plu, cette façon de travailler de jour, etc., parle-en autour de toi. Et en fait, ils vont en parler spontanément à leurs copains plutôt qu'à leurs femmes. Donc, voilà pourquoi, historiquement, on a beaucoup plus d'hommes de ménage que de femmes de ménage. Et ça se passe très bien.
C'était enfin, pas une revendication à la
pas
base.
Du
quoi. C'était,
pas
ça
du
s'est
tout.
Fait, voilà.
Non, pas du tout. Mais du coup, ça devient un petit attrait commercial aussi de se dire, tiens, c'est la boîte de ménage où il y a que des mecs. Tu vois,
Comment tu fais pour supprimer les nuisances qui ont fait qu'à la base on a sorti le ménage, genre l'aspirateur qui se met à gueuler dans tous les bureaux alors que les gens sont dans l'open space.
Alors je pense que au départ quand on a sorti le ménage c'était pas à cause de ces nuisances là, c'est juste que le ménage c'est sale, c'est un sous-métier, on veut pas le voir.
Ouais.
On voulait que le show-off, la vitrine, tout ça. Mais pas du tout en fait, en réalité c'est comme quand tu vas dans un bar. Avant, ou dans un resto, avant, les cuisines, elles étaient en sous-sol. Personne ne voyait le cuisinier. Maintenant, c'est ultra tendance de voir le cuisinier, il est derrière une verrière, et tu vois ce qu'il fait. Et là, tu t'aperçois de ce qu'il fait. Puis lui, il te voit aussi, et dit, tiens, là, je vais bien faire mon plat, parce que je vais avoir le retour en me disant, tiens, je le vois déguster. Là, c'est exactement pareil. Je pense qu'il y a aussi une évolution des mentalités qui fait qu'on ne cache plus aucun métier. Et pour l'aspirateur, pour répondre à ta question, c'est très simple. Soit on le passe avant l'ouverture, des bureaux. Donc, grosso modo, ces bureaux, ils ouvrent à 9h, on est là à 8h. Donc, ça reste du travail de jour. Et effectivement, on va faire pendant cette heure-là tout ce qui est bruyant. Et après, par contre, nettoyer un bureau, ça fait pas de bruit. Et puis, c'est l'occasion aussi pour le collaborateur de se dire, tiens, je vous laisse mon bureau, je vais me prendre un café. C'est aussi l'occasion pour lui de se dire, ça m'oblige à faire une coupure, ce qui est plutôt pas mal en termes de qualité de vie au travail. Donc, tout cet équilibre-là, en fait, tu t'aperçois que et le client et le cleaner s'y retrouvent en réalité. Donc, et puis là, moi je suis désolée, mais depuis la crise Covid, on s'est rendu compte de l'importance des normes sanitaires. Plus personne ne se permettrait de dire « Ah, t'es femme de ménage, c'est fini ça ». Il y a eu un respect, enfin je veux dire, on applaudissait les éboueurs au même titre que les infirmières. Donc là, maintenant, on s'est rendu compte que ces métiers vraiment de première ligne, ils sont nécessaire. D'ailleurs, la preuve, c'est que on dit jamais, ça a été super bien fait le ménage. Par contre, on dit toujours, ça a été mal fait. C'est-à-dire que.
Quand c'est bien fait, ça se voit pas.
Exactement. Quand c'est bien fait, ça ne se voit pas. C'est magique. Alors que quand c'est mal fait, tu dis, et là, t'appuies là où c'est pas bon.
C'est ce que me dit ma femme.
Voilà. C'est ça, exactement. Donc,
on voit pas ce qui est fait, mais on voit ce qui est pas fait.
Exactement. Donc, comme quoi.
C'est affreux.
C'est bien la preuve que c'est un métier indispensable. Parce que si ça devait disparaître du jour au lendemain, en 3 jours, tu perdrais toute l'hygiène de ton bureau.
Et il y a quelque chose de vraiment impressionnant, en fait, parce que je connais un peu, et les gens qui sont dans ces milieux-là, dans ces jobs-là, ils sont souvent maltraités, pas physiquement, mais sur plein de plans différents. Mmh. C'est un gras, en plus, il y en a beaucoup qui parlent pas bien français, et du coup, c'est d'autant plus difficile de nouer des liens, et puis ils sont pas avec les gens. Enfin, voilà. Et au final, ils sont pressurés aussi par le salarié, par le patron, parce que le patron, il s'en fiche un peu aussi. Enfin, c'est les visions que j'en ai. Et toi, ton turnover, donc en général, voilà, quand on a des femmes de ménage, souvent c'est du personnel ménager, ça tourne très vite parce que tout le monde n'est pas content, en fait. Personne n'est satisfait dans cette ambiance-là. Et toi, t'es à moins de 2% de turnover. Donc en gros, tout le monde reste et puis les gens qui s'en vont, c'est parce que bon, voilà, on a tous une vie. Mais 2%, ça me paraît vraiment très faible, parce que pour donner un exemple, chez Tesla, par exemple, ou c'est pas pour des ingénieurs, des mecs, la Silicon Valley, là. Ils sont à 10% par an. Alors, ils sont élevés parce que ils veulent garder, ils ont une stratégie d'écrémage par le haut, là. Mais voilà, 10%, c'est déjà des gens très motivés. Et à 2%, ça veut dire que c'est miraculeux, en fait. Enfin, comment on fait pour instaurer un équilibre et un bien-être sur des métiers comme ça?
Ben, en fait, tout part de la première décision. C'est-à-dire, la première des décisions, c'est le donneur d'ordre. Le donneur d'ordre qui, moi, va me dire, je ne regarde que en bas à droite le prix de votre devis et je veux toujours aller sur le bas, sur le bas, sur le bas. Je lui dis, OK, mais ça sert à rien de venir me voir. Moi, ce prix-là, je vais pas vous l'accepter. Donc, déjà, la première des choses, c'est de ne pas vendre pour vendre. Or, t'as 80%, peut-être même plus, des entreprises de nettoyage qui se disent, faut faire du chiffre, ils ont une armée de commerciaux, et les mecs, ils vendent. Ils ont rencontré ni le client, ni le lieu, ni la personne qui va faire le ménage. Mais ils ont vendu, ils ont atteint leurs objectifs. Donc ça, c'est déjà le premier biais d'une relation commerciale qui va pas être satisfaisante. Elle va pas être satisfaisante parce que le commercial, une fois qu'il a vendu ça, je vais te dire une connerie, mais il a vendu, allez, il a baissé les prix au plus bas du plus bas, et puis il a survendu en disant oui, on vous inquiétez pas, à ce prix-là, pour le peu de nombre d'heures que vous avez pris, ce sera propre.
Alors pour être tout à fait clair, le SMIC en France, donc salaire minimum, brut salarial, c'est 9,90 euros, on va dire.
Ouais, c'est 10,33, enfin c'est 10,25 sur les métiers normaux, et c'est 10,56 sur les métiers de la propreté.
Donc on va dire 10, voilà. Pour arrondir. Donc voilà. Ça veut dire qu'une fois chargé brut patronal, ce que le client paye, enfin pas le client, mais toi, tu payes, fait peut-être 20.
Ouais, c'est 40% de charge à peu près.
Bon, ouais, après,
non, parce que en fait, tu as des abattements Fillon, c'est en fonction.
Ah, mais avant abattement,
si c'est un CDD,
c'est-à-dire ce que ça
coûte. Grosso modo, ça va te coûter, un petit peu moins de 17 euros.
17. Et voilà. Après, il y a les abattements.
Et après, il peut y avoir des abattements ou pas.
Ouais.
Mais grosso modo, un SMIC chargé, c'est 17 euros. Donc les mecs, ils vendent à 17 euros de l'heure. Je sais pas comment ils font.
Donc le en tout cas c'est ça, et après 17 euros, faut faire au moins 20% de marge commerciale pour une entreprise pour vivre.
Ben normalement.
Donc ça fait 3, donc t'es à 20 quoi. En gros, voilà. Tu peux pas acheter une heure de ménage moins de 20 euros.
Tu ne peux pas acheter moins de 20 euros.
Ça c'est le marché classique.
Voilà, ça c'est le marché classique, sachant que c'est plutôt la médiane, le tarif médian, il est à 23 euros. Mais on parle même pas de ça, en fait. C'est même pas le tarif.
Et toi, t'es à 40?
Non, pas du tout. On est un petit peu plus. On est à 24.
24 au lieu de 20?
Ouais.
Non,
ouais.
Tu me disais 23.
Ouais, au lieu de 23. Mais en fait, ce que je veux te démontrer, c'est que c'est même pas le coût d'achat qui est en cause. C'est le nombre d'heures qui sont vendues derrière et qui ne sont pas réalisées. Parce que l'entreprise, le commercial qui arrive et qui dit, moi, je suis l'entreprise de propreté X. Je vais vous vendre, là, je vous garantis que pour 400 euros par mois, votre truc, c'est nickel. Le client se dit, OK, le tarif me va.
400
moi,
euros, je sais faire.
Voilà, que ça me va, etc. Sauf que on sait pas combien d'heures il y a derrière, puisque ça se passe la nuit et que c'est magique, comme on a expliqué. Pour 400 euros, le client, la boîte de ménage, faut qu'elle s'en sorte. Donc,
400 euros, t'as quoi dans ton modèle, là?
Donc, 400 euros, tu as, je sais pas, on va partir d'une modélisation à 2 heures par jour. D'accord? Sauf que c'est pas rentable. Comme on a expliqué. Il va pas gagner de marge, puis il faut payer le commercial et les frais fixes de l'entreprise.
Ça fait 46.
Donc, grosso modo, on va envoyer la personne de ménage au lieu de 2 heures par jour, ce qu'on a vendu, on va l'envoyer qu'une heure par jour. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer que le ménage sera mal fait. Mais pas parce que la personne qui fait le ménage est mauvaise. Mais parce que elle n'a juste
pas le temps.
pas le temps nécessaire. Si on dit qu'il faut 2 heures pour nettoyer, elle peut pas le faire en 1 heure. Donc voilà. Ou alors c'est qu'on a survendu. Donc dans tous les cas, ça ne va pas. Donc, déjà, la première des choses, c'est que souvent, on vend des heures qu'on n'effectue pas. Ça, c'est le premier point de dysfonctionnement. Le deuxième point, c'est que souvent, ces personnes-là, comme c'est la course à la rentabilité, eh bien, ces personnes-là, on va leur donner 17 heures d'amplitude horaire pour être payées au final 5 heures. Parce que les trajets sont pas compris, parce qu'il y a des coupures, alors que normalement, les trajets, les temps de trajet doivent être comptés. Mais ils vont appeler ça coupure, donc ce sera pas compté.
Coupure, c'est la pause midi?
Non, ça peut être... mais il y a dans plein de métiers, tu as des coupures. Tu travailles le matin, et puis après, tu as une interruption pendant 4 heures, et puis tu reprends le soir. Donc résultat, la personne, elle habite rarement là où il y a les bureaux quand même. Donc elle a pas le temps physiquement de retourner chez elle. Donc est-ce qu'elle fait... Elle reste dans la rue, elle traîne, machin. Donc résultat, elle est épuisée à la fin de la journée. Et ça, toute l'année. Donc qu'est-ce qui se passe? Bah, elle démissionne. Ou elle se dit, bah tiens, je vais dans une autre boîte où là, on me garantit que mon temps de travail va être vraiment sur 8 heures d'amplitude horaire. Donc elle part. Elle aura les mêmes conditions, mais au moins ce sera sur 8 heures, tu vois, on en est là. Donc tous ces petits points de dysfonctionnement font que tu ne retiens ni tes clients, ni tes cleaners.
Donc toi, en fait, ce que tu dis, c'est que déjà sur le prix, tu es 15% plus cher à peu près.
Ouais, on est un petit peu plus cher, peut-être pas forcément 15%, parce qu'en fait, chaque devis, c'est vraiment...
C'est dur sur mesure. C'est pas le trip, c'est
ah non, c'est pas le trip, c'est 10-15%, voilà.
Fixé.
Exactement.
Pour ça, quoi on parle, parce qu'on dit moins cher, ça n'existe pas, moi, c'est con.
Ouais, alors puisqu'on parle tarif, moi je dis toujours, c'est pas ce que ça vous coûte, c'est ce que ça va vous rapporter. Donc effectivement, je lui dis, considérez ma facture non pas comme une facture, mais comme un investissement. L'investissement sur le bien-être de vos collaborateurs, l'investissement sur, vous n'allez pas vous taper la honte quand vous recevez un client parce que c'est dégueulasse ou qu'il y a des toiles d'araignée. Et tout ça, bah, ça a un petit coût. Et ce petit coût fait que on l'obtient parce que nous, déjà, on a des gens qui sont prêts à travailler, qui ne sont pas déjà épuisés par les multiples missions qu'ils ont eues avant, puisque nous, on part du principe que pas plus de 3 clients par jour, sur une amplitude horaire de 8 heures par jour, avec une coupure du midi, donc ça fait 7 heures par jour, c'est la loi. Et surtout, on a un plan en fait de déplacement optimisé. Donc ce qui veut dire que la personne, elle a pas 2 heures de temps de trajet entre chaque client. Voilà.
Donc, est-ce qu'il mange avec les gens de l'entreprise? Moi, ça m'a toujours choqué. En fait, à midi, on se rejoint tous, mais il n'y a pas la femme de ménage.
Alors, est-ce qu'il mange entre... Je n'en sais rien. Par contre, ce que je sais, parce que ça m'a été rapporté aussi bien côté cleaner que côté client, ils sont invités aux arbres de Noël. Ou ils sont invités quand il y a un pot de départ. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'il mange le midi? J'en sais rien. Mais ça, oui, c'est pareil. Tu vois, quand tu as des arbres de Noël, souvent, il y a une enveloppe qui est donnée aux salariés. Ils en ont une aussi, les miens. Tu vois?
Alors qu'ils sont pas dans l'entreprise.
Alors qu'ils sont pas dans l'entreprise.
De type Uber. Pas une plateforme
non.
En ligne.
Ah non, alors attention, là, tu confonds deux structures. En fait, là, moi, je te parle depuis tout à l'heure de EcoClean, qui existe depuis 2005, qui est sur un modèle uniquement B2B, c'est-à-dire on va dans les entreprises avec des emplois du temps qui sont fixes et des gens qui sont attribués à des clients.
Et c'est tes salariés.
Et ça, sont mes salariés. Ensuite, là, la plateforme type Uber, on va rectifier tout de suite, c'est tout sauf une plateforme type Uber. C'est-à-dire que
c'est une plateforme.
Alors, voilà. C'est uniquement une digitalisation de mon entreprise EcoClean. C'est-à-dire que EcoClean on Demand, c'est uniquement, c'est-à-dire, alors déjà, ce sont que des salariés, c'est pas une plateforme d'intermédiation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'auto-entrepreneur derrière, il y a vraiment des salariés d'EcoClean on Demand. Et les clients, par contre, ils sont pas attribués à EcoClean on Demand. C'est des gens comme toi et moi, c'est-à-dire qui se disent bah tiens, j'ai un dîner demain, l'appart est dégueulasse, j'ai juste pas le temps parce que j'ai 3 réunions. Hop, je vais aller sur l'appli et je vais commander un service de nettoyage ponctuel, sans abonnement, sans surcoût. Voilà, comme ça.
Ménage de printemps, on est au mois de mars.
C'est ça, voilà. Ouais, ou tout simplement.
Et
bah,
c'est combien de temps pour... Alors j'imagine que c'est Paris, Lyon, Marseille, parce que.
Alors on est absolument partout en France, sur des grandes villes, toujours voilà. Dans ce plan d'urbanisation, puisque jamais de plus de 3 stations de métro entre 2 clients, hein, toujours. Et comme en plus on a introduit la géolocalisation, le cleaner, il a carrément son itinéraire qui apparaît sur son smartphone pour lui dire voilà, pour te rendre chez le prochain client, voilà comment tu passes.
Et ça, c'est, ça prend combien de temps si on veut commander une prestation de ménage?
Alors, le plus long, c'est de renseigner ton appartement. Ça va te prendre, ouais, allez, 3 minutes. Et après, une fois que ton appartement est enregistré sur la plateforme, quand tu veux recommander, tu as juste à cliquer « Je paye ».
Parce que la dernière fois que j'ai voulu faire prendre quelqu'un, eh ben, il faut savoir si c'est du CESU, si…
C'est ça. C'est pour ça que nous ne sommes pas une plateforme d'intermédiation. L'employeur, c'est moi, c'est pas toi.
D'accord.
Donc, il n'y a pas de CESU, il n'y a rien du tout. C'est juste, tu mets ta carte bleue, tu payes, et quelques minutes après, tu as quelqu'un qui arrive chez toi.
Ça coûte 100 euros, 100 euros.
Non, c'est 15 euros de l'heure après abattement fiscal.
Oui, voilà, mais je dis ça, si ça coûte 100, c'est écrit à la fin du site, on paye, et puis voilà.
C'est ça, exactement. À la fin du site.
Si ça fait 6 heures, 10 heures de ménage.
Exactement, à la fin, une fois que tu as renseigné ton appartement et que tu as coché toutes les options que tu voulais, ça te sort instantanément un tarif. Il n'y a pas à attendre que quelqu'un vienne chez toi te faire un devis, etc. C'est vraiment comme quand tu commandes un plat cuisiné ou un taxi.
Et il y avait une autre grande différence qui m'a intéressé, c'est que habituellement, les personnels ménagers, ils se trimballent tout son matériel.
Ouais.
Et toi, t'as dit, bah non, le matos, ça fait un peu mal au dos. Et moi, c'est quelque chose, j'ai une énorme valise quand je fais des interviews, et dans le métro, c'est pas chic du tout. Et du coup, tu te dis aux employeurs, bah écoutez, vous mettez, je sais pas, 1000 balles ou 2000 balles dans les balais, la brosse, le machin, et puis la personne peut se promener normalement, quoi.
Alors c'est presque ça. C'est presque ça. C'est pas le client qui va supporter le coût d'acquisition de ce matériel, c'est mon entreprise qui met à disposition ce matériel-là chez le client.
Ouais, t'as des lots, quoi. T'as des lots que
exactement.
Tu...
Exactement. La première des raisons, c'est que effectivement, moi, je ne veux pas que mon cleaner se fatigue à traverser Paris 3 fois par jour, et je ne veux pas qu'il ait un port de charge. Donc, il n'a que ses pieds à transporter, si je puis m'exprimer ainsi. Deuxième avantage pour le client, c'est que s'il y a un petit incident, je sais pas moi, un café renversé ou je sais pas quoi avant une grande présentation client,
il y a le matos dans le placard.
Il y a le matos, hop, on y va, on se sert, on fait, tac tac, hop, c'est fait. Voilà. Donc, c'est effectivement. C'est ce coût d'acquisition, il est supporté par mon entreprise et en aucun cas par le client.
Et, ça,
et chez
coup,
les particuliers, c'est pareil. Vous devez avoir à disposition votre matériel. Si vous n'en avez pas, on vous vend des kits. Ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, quand le cleaner arrive, il faut qu'il y ait tout le matériel sur place.
Et comment ça se passe pour quelqu'un qui commande une prestation ponctuelle? C'est quoi le...
Eh ben, on vous fait cocher dans les conditions générales de vente, comme quoi vous avez bien à disposition et vous devez cocher tout ce qu'on vous demande. Bon, c'est pas grand chose, hein. C'est un aspirateur, des éponges, des produits,
oui,
etc. Mais ce que normalement vous avez tout chez vous.
Il utilise le matériel à disposition.
Exactement. Maintenant, s'il y en a pas, il peut aller effectivement acheter des kits. Mais là, pour le coup, faut prévoir 48 heures parce que c'est livré sous 48 heures. Mais ça marche très bien sur des résidences type Airbnb. Des appartements où vous mettez jamais les pieds, vous commandez les kits, ça arrive dans la boîte aux lettres, le cleaner prend directement dans votre boîte aux lettres et le remonte dans votre appart. Vous n'avez jamais besoin de mettre les pieds dans votre appart, en fait.
D'accord.
Mais les kits, c'est plus réservé sur de l'appartement résidentiel. Après, quand c'est de l'habitation principale, en général, il y a ce qu'il faut sur place.
Appartement résidentiel, c'est de la location, quoi.
Location courte durée ou location tout court.
Et par contre, ce qu'on est en train de dire, c'est pourquoi les autres ne l'ont pas fait avant. C'est parce qu'il y a quand même un peu d'ingénierie entre les deux, quoi. C'est-à-dire avant d'optimiser tous les trajets des cleaners, d'optimiser les emplois de matériel.
Il y a un petit peu d'intelligence artificielle, il y a un petit peu quelques millions qui ont été injectés dans cette techno. Enfin voilà.
Comment ça marche derrière? C'est quoi le principe?
Bah notre asset digital, le principe, c'est
qu'est-ce que tu fais que les autres ne font pas, quoi. Voilà.
C'est tout ce que je viens de te dire. C'est les produits écologiques, c'est le non port de charge, c'est l'optimisation des temps de trajet, c'est le fait d'avoir tous les clients dans le même périmètre pour optimiser la planification du travail. Et puis, c'est après toute l'optimisation digitale qu'on a mis en place.
C'est-à-dire, t'as un codeur, t'as un bon vieux geek aux cheveux longs.
On en a plusieurs dizaines, mais oui.
C'est-à-dire, c'est de la grosse ingénierie pour arriver à tout optimiser.
C'est de la grosse ingénierie pour être tout à fait transparente. La plateforme qu'on a lancée, c'est 2 millions d'euros juste en intelligence artificielle. Donc, c'est pas toutes les boîtes peuvent se lancer sur ce terrain-là. Mais une petite boîte lambda où il y a 3 laveurs de carreaux et 4 femmes de ménage, ça marche aussi, hein. Mais il faut juste que, voilà. Moi, si je peux les inciter à juste respecter les temps de travail de vos salariés, parce que en réalité, tu parlais du turnover tout à l'heure, ça coûte très très cher un salarié qui s'en va à remplacer. Ça coûte cher en RH, ça coûte cher en faut réhabituer le client aussi. Tu vois, de lui dire, bah voilà, vous saviez, Maëva, que vous aimiez beaucoup, qui travaillait très bien, bah maintenant, ça va être Johnny. Ah, mais Johnny, j'aime pas sa tête, il me parle pas, enfin... Tu vois, c'est plein de petits trucs d'intuité personnée qui font que la relation, elle est vertueuse, parce que il y a un respect des deux côtés. Et moi, j'ai envie de te dire, je ne suis que le tiers de confiance, en fait. Moi, la relation commerciale, elle est essentiellement entre mon cleaner et mon client. Mais moi, perso, le client me voit juste une fois le jour où il signe son contrat. Mon cleaner voit plutôt mes chefs d'équipe. Moi, je suis que le tiers de confiance, qui est garant, justement, de cette bonne mise en place et ce respect, surtout.
Parce qu'on, oui, parce qu'on, je sais pas si on l'a déjà dit, mais c'est 1500 cleaners, en fait.
Oui. Alors, c'est 1500 à date. Mais d'ici la fin de l'année, on veut monter à 20 000 cleaners. Donc, si tu connais des gens qui cherchent un job, on est preneurs.
Au moins, le message est passé. Si vous avez des heures à tuer pour faire du ménage.
Oui, parce que des compléments de revenus d'activité, tu vois, tout à l'heure, on parlait du SMIC, etc. Où je te disais, bah, c'est 8,33 le SMIC médian, c'est 10,56 dans la propreté. Nous, on paye 12. Donc, tu vois, les étudiants, je vous invite à vous inscrire sur ma plateforme.
Ils sont là.
Voilà. C'est ça.
Et oui, donc ça c'est très intéressant. Et après, il y a un sujet que je voulais aborder avec toi. Maintenant qu'on a compris un peu ce que c'était, ouais, que le marché du ménage et ce que toi tu faisais, on parle beaucoup de critères RSE, ESG, etc. Qui, moi, me mettent un peu mal à l'aise quand on en parle comme ça, parce que c'est très générique. Et j'en ai fait dans les boîtes de la labellisation qualité. Et franchement, oui, on fait ce qu'on écrit, on écrit ce qu'on fait, etc. Ouais, ok, j'ai vu. Et j'ai fait des classeurs entiers, qualité. Bon, ça a très vite ses limites. À quel moment t'arrives à passer un cap qualitatif en prenant en compte l'humain, mais au-delà des labels, c'est-à-dire dans l'entreprise? Comment est-ce qu'on insuffle un esprit participatif, beaucoup de gouvernance participative, pour de vrai, dans une entreprise? Parce qu'une entreprise, c'est d'abord, ça fait des profits, et ensuite, on s'organise pour que... comment vous le vivez, ça, ce côté participatif dans l'organisation?
Alors,
en vrai,
l'entreprise qui fait des profits, ça, c'est une définition qui date du code de Napoléon, hein, donc il est temps de remettre un peu au jour. C'est-à-dire qu'une entreprise, oui, effectivement, son but ultime, c'est de faire des profits.
Le premier, quoi.
Sinon, ça s'appellerait une association, loi 1901, à but non lucratif.
Ou une entreprise en faillite.
Ou une entreprise en faillite, exactement.
Qui dure pas longtemps.
Donc, effectivement, ça, c'est un point indéniable. Sinon, il n'y a pas de survie de l'entreprise. Donc, on peut mettre tout ce qu'on veut de vertu en place. S'il n'y a pas de profit, effectivement, ça n'a aucun sens. Mais après, on peut choisir soit de faire des profits de façon course effrénée, un peu ce que je t'expliquais, le commercial qui va vendre des devis dégueulasses à bas prix, ou derrière, on sait très bien pertinemment que de toute façon, le contrat, une fois qu'il sera arrivé à son terme, ne sera pas reconduit, que entre temps il y aura eu 6 cleaners sur le même poste. Enfin, voilà, ça, on peut faire ça. C'est pas viable. Enfin, il y en a qui tiennent 40 ans en faisant ça. Hein. Mais charge à eux de se regarder dans la glace tous les matins. Moi, je trouve que à partir du moment où tu respectes, il y a trois piliers à respecter. Il y a tes employés, tes clients et l'environnement. À partir du moment où tu respectes ces trois choses-là, tu peux faire. J'ai envie de te dire que le terrain de jeu, il est jamais atteint. Tu peux toujours trouver des meilleures conditions de qualité de vie au travail pour tes cleaners. Tu peux toujours trouver des options sur, même quand on parle de ménage, tu peux toujours trouver des choses pour améliorer la qualité de vie au travail de tes clients. Je vois un truc tout con, mais là, par exemple, avec le Covid, tous les gobelets étaient interdits. Donc maintenant, ils ont tous des gourdes. Bon, bah, il y a un moment donné, ces gourdes, bah, faut bien les nettoyer. Et là, tu vas pas dire, bah non, c'est pas dans votre contrat. Donc, tu t'adaptes, tu vois. Et puis, nous, on a des produits Covicide que le client, bah, il a pas forcément d'individuel. Donc, on lui dit, OK, ta gourde, tu l'as nettoyée, mais tu l'as nettoyée avec quoi? Est-ce qu'à ton avis, elle est vraiment désinfectée? Et là, il fait, ah, je sais pas. Bah, tiens, regarde, nous, on a un produit, il est EN14476. C'est là, il te regarde avec des yeux comme ça, là, comme toi. Eh bah, c'est le seul Covicide. Voilà. C'est le seul produit qui soit Covicide. S'il a pas cette norme-là, eh bah, il est pas Covicide. tu vois. Il peut être bactéricide, mais il est pas coïncide.
Ah oui, donc c'est le
EN14-476.
Voilà, et ben celui-là, il tue le Covid, quoi.
Voilà, celui-là, il tue le Covid.
Il le dissout, j'imagine.
Alors, je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, il n'y a plus de Covid, en tout cas, pendant les quelques heures suivant le nettoyage. Et ça, ces produits-là, ils sont pas à la portée de tout le monde. Donc là, tu vas pas aller voir ton client en disant, bah tu sais, ton prix, là, c'était 2000, mais là, je te fournis du Covid, c'est passé à 4000. Alors, tu peux, hein, mais tu vas pas t'amuser longtemps. Donc nous, on est toujours sur ces conditions-là, tu vois, d'adaptation, de flexibilité. Et ça, bah c'est hyper important. Enfin, et l'environnement, c'est pareil. Tu vois, nous, par exemple, on est la seule entreprise de nettoyage sans véhicule. Donc je dis toujours, on est une entreprise de nettoyage sans pot d'échappement. Parce qu'en fait, en réalité, ils utilisaient ce transport en commun ou tout le report modal un peu à la mode dans les grandes villes, type trottinette électrique, scooter électrique, ce que tu veux, machin. Et ça, c'est pris en charge, tu vois. Nous, plutôt
c'est
que
pris
de,
en charge.
Bah, c'est-à-dire que nous, plutôt que de payer des passes Navigo, quand on a des clients qui disent « bah ouais, mais moi, je préfère être en scooter électrique », on paye l'abonnement de scooter électrique. Mmh. Le pass Navigo, c'est 37,60€. On rembourse à hauteur de 37,60€. Mmh. Voilà. Mais tout ça font que bah, c'est un espèce d'écosystème un peu vertueux et il n'y a pas besoin de label pour labelliser ça. Mmh. Il suffit juste d'interroger le client. Est-ce que tu es content de tes cleaners? Ouais, puis en plus, je les connais tous. Et puis ils s'aperçoivent qu'un cleaner, c'est pas forcément qu'un cleaner. Comme ils s'aperçoivent que son ingénieur, il a une passion, je sais pas moi, pour le parachutisme, et bah, il peut s'apercevoir que son cleaner, il a une passion pour la danse moderne. Tu vois? Donc, quand tu rentres dans la vie des gens, etc., bah, tu crées un truc qui fait que ça tourne et on n'a pas besoin de tous les labels. Alors, nous, on a des labels, on a Bicorp, par exemple, mais c'est plus pour notre rapport d'activité, pour effectivement
c'est pour tamponner
attester.
Le passeport,
voilà, c'est pour attester. Mais en réalité, en 2005, mais quand je parlais de développement durable, etc., les gens, ils connaissaient rien. Puis, on savait même pas que 10 ans après, ça allait s'appeler de la RSE. Et qu'après, ça allait s'appeler des critères ESG. Tout ça, on l'a toujours fait. C'est ce qu'on appelle être purpose native. C'est-à-dire que nous, dès le départ, on est parti de ça et on n'a jamais dérogé.
Alors, ce que j'aime bien dans ton approche, en fait, c'est qu'en ce moment, la grande mode, c'est de coller des étiquettes partout en disant « Ah, c'est une femme, ah, trop bien, on a besoin, là, il faut une femme. Ah, et puis, en plus, elle est noire. Ah, bah, encore des points. Et puis, ah, puis si t'es pas handicapé, ah, on peut pas être parfait, quoi. Ouais. » Mais en réalité, moi, ce que je dis souvent, c'est « Faut pas convaincre, faut faire. » D'ailleurs, ça sert à rien de revendiquer. C'est beaucoup mieux de faire et de montrer qu'on sait faire.
Eh ben, c'est comme ça que tu vas convaincre.
Oui, mais tu vois, mais c'est dans ce sens-là, quoi. C'est pas dans l'autre, on n'est pas là.
Pour moi, c'est dans ce sens-là. Maintenant, après, t'es pas obligé non plus de te mettre tous les fardeaux de la terre, hein. Tu peux pas répondre à tous les critères et d'inclusion et de diversité et de critères RSE, etc. Enfin, moi, je pense qu'il faut s'emparer de certains sujets et les faire bien et à fond. Moi, mes sujets, c'est l'environnement et c'est l'humain.
Je sais pas si tu connais Isaac Goetz, c'est un gars qui a écrit sur l'entreprise libérée. Peut-être que
oui,
aussi,
si,
peut-être
je connais.
Pas.
Ouais, ouais, c'est si.
Et du coup, je sais pas si toi, tu t'es inspiré de. Alors, il a fait un livre pour expliquer que plus les salariés et les collaborateurs au sens large, mais pas que des salariés, des prestataires, des actionnaires, de ce qu'on veut, sont intégrés à la prise de décision dans l'entreprise, et plus les choses tournent de façon intelligente. Mm-mm. Voilà. Parce que c'est pas, oui, mais moi, ma fiche de poste, elle dit que je m'arrête à 2 mètres de la théière, donc, et après, débrouillez-vous. Comment est-ce que ça, est-ce que tu le vis? Est-ce que tu essayes de le mettre en place et d'avoir des salariés ou des prestataires qui sont impliqués et responsables plus que...
Alors,
c'est dur,
l'entreprise libérée, c'est un mouvement dont on parle depuis, allez, une petite dizaine d'années, qui commence à mourir au profit de l'entreprise à mission. Mais tout ça, c'est jamais que mettre des mots sur ce qu'on fait depuis 2005. En 2005, personne parlait d'entreprise libérée et pourtant on faisait déjà du management horizontal.
Alors c'est quoi le management horizontal chez toi ?
Alors le management horizontal chez moi, c'est de dire, voilà, vous êtes tous responsables de votre poste et vous êtes tous responsables de votre planning. Ça veut dire que si vous voulez avoir plus d'heures, eh bien montrez-moi que vous êtes capable d'avoir plus d'heures.
Côté cleaner,
montrez-moi que vous voulez plus de responsabilités, eh bien prenez en charge. Faites des actions qui vont nous démontrer que vous en avez la capacité. Parce que on parle de population qui n'a pas fait d'études, qui n'est pas diplômée, mais qui a une grande intelligence de la vie et qui a un peu l'intelligence de la démerde, de la débrouille. Et ça, c'est hyper précieux dans une entreprise de nettoyage. Le mec qui te démontre que il sait démonter, remonter la machine à café. Tu sais, parce que nous, les machines à café, on fout un petit coup de vinaigre blanc et puis voilà, elle retourne. Enfin, elle tourne bien. Mais dans des entreprises, t'as ce qu'on appelle des baristas. Donc, c'est des vraies machines où vraiment c'est compliqué, etc.
Ah, c'est comme les imprimantes. Il y a l'imprimante Epson chez nous et puis il y a l'imprimante.
Voilà. Et ben, c'est le même truc. Sauf que l'imprimante machine comme ça, ben, il y a un contrat de maintenance. Sur la machine à café, il n'y a que dalle. Mmh. Donc, en général, ça retombe sur l'entreprise de nettoyage. Eh bien, celui qui va démontrer qu'il sait faire ça, mais évidemment que je le fais monter en compétence, et évidemment qu'il va devenir le chef des machines à café. Tu vois, nous, ça nous fait sourire, mais lui, dans sa vie, chef des machines à café, mais c'est comme s'il avait fait l'ENA, enfin, tu vois. Et ça, en fait, quand tu rends les gens heureux, heureux au travail, quand tu les considères, quand tu leur démontres que...
Mais ça passe par quoi concrètement? Comment t'arrives à mettre ça en place?
Ben, c'est tout.
C'est le gars qui repère sur place, il te dit, ah bah tiens, je peux faire ça, le client est d'accord.
Alors nous, on leur dit que, à tous, on leur dit, il n'y a pas de mauvaises décisions, il n'y a que des mauvais choix. Donc, ça veut dire que si tu as décidé...
Philosophique, ça.
Ouais. Ouais, mais c'est pas parce qu'on parle de ménage que les mecs, c'est des gogoles, enfin, ouais, tu vois.
Non, mais qu'est-ce que tu entends par là?
Moi, ce que j'entends par là, c'est que la carrière de chaque cleaner ne s'arrête pas à ce qui est écrit sur son contrat. C'est-à-dire que si, par exemple, il est rentré en tant que simple agent échelon 1, eh ben, il peut très bien finir manager. C'est pas écrit sur son contrat qu'il doit avoir tel objectif et finir manager dans 2 ans. Mais s'il en a la volonté et que s'il le démontre au quotidien, bien sûr qu'il va passer manager. Et ça, c'est quand même important parce que c'est ce qu'on appelle du management participatif. Et chez nous, les chefs, ils sont pas là pour taper dessus, quoi. Enfin, ils sont là pour recadrer si c'est nécessaire, bien évidemment. Mais j'ai envie de te dire que nous, nos meilleurs chefs, c'est nos clients, en fait. Parce que c'est le client qui voit au quotidien ce qui va pas. Et c'est le client qui va dire, ah putain, oh, mon bureau est génial, il sent bon et tout, vraiment, merci. Et ça, ça fait du bien parce que c'est la première fois de leur vie qu'on leur dit merci. Et puis de dire au contraire, là, excuse-moi, viens. Et puis ils vont le faire discrètement, c'est assez rare qu'ils se fassent éclater devant tout le monde. On dit, tiens, regarde, tu vois là, bah, un clavier, tu sais, ça se soulève, hein, parce que regarde dessous. Et c'est réglé en général, ça ne me remonte même pas aux oreilles. Mmh. C'est ça du management participatif.
Et ils ont une latitude, tes cleaners, par exemple, pour négocier un peu le contrat avec le client, c'est-à-dire, ah ben, il y a ça, j'ai remarqué que le radiateur, il était branlant, chose qui arrive assez souvent. Est-ce que, tiens, allez, est-ce que si tu veux, je te le fais, tac. Est-ce qu'il y a des arrangements pratico-pratiques?
Non, alors ça, c'est pas possible dans la mesure où après on tombe sur un truc un peu rigide qui s'appelle le droit du travail. Ça, c'est... On peut pas faire ce qu'on veut avec à cause de ce petit truc là, voilà. Donc non. Par contre, il peut faire ce qu'on appelle un rapport d'incident où là effectivement, soit on va conseiller le client en disant bah écoute, passe par la maintenance générale de ton bâtiment parce que c'est inclus dedans en général. Soit effectivement, on peut le faire, mais par contre à décharge. Voilà. Mais en tout cas, c'est très encadré.
À décharge, ça veut dire?
Ça veut dire à décharge, ça veut dire que si jamais...
Si ça casse, c'est pas nous.
Voilà, ça casse, c'est pas nous, parce que voilà. Mais grosso modo, c'est ça que ça veut dire. Mais 9 fois sur 10, il va aller trouver un prestat extérieur dont c'est le métier. Hmm. Voilà, on fait pas de vente additionnelle là-dessus. On va être force de proposition sur du conseil. Et puis si vraiment il dit « Ok, vous le faites à décharge », ça va être fait dans ses heures de ménage. Donc, il sera pas chargé pour ça, en fait. Hmm.
Donc en fait, de 1500 cleaners, tu veux passer à 20 000 en gros.
Oui.
Et ça, bah, c'est chouette, bravo. Du coup, j'aimerais bien revenir sur ton parcours parce que bah, c'est une réussite extraordinaire. Quand j'aime bien distinguer en fait la dimension extraordinaire d'une réussite avec la dimension ordinaire d'une personne. Mm-hmm. Parce que on peut faire fois 1000 dans son business, mais on peut pas faire 1000 fois plus d'heures ou être 1000 fois plus intelligent que le plus con, quoi.
Tu vois, c'est
vrai. Y a un problème de scalabilité, quoi.
Ouais,
tu vois.
C'est vrai. Oui.
Donc, ce qui est intéressant, c'est de montrer comment justement les gens normaux, ordinaires, arrivent à des résultats comme ça, pour montrer essentiellement que c'est accessible, quoi. Mm-hmm. Et du coup, t'as grandi où? Tu viens d'où?
Alors, moi, il y a un truc qui tourne sur les réseaux sociaux en ce moment qui me fait beaucoup rire. C'est Bill Gates a commencé dans un garage, Jeff Bezos a commencé dans un garage, je sais plus qui a
commencé, dans un garage.
Et moralité de l'histoire, achetez-vous un garage. Voilà. C'est un peu ça l'histoire. Donc non, j'ai pas vécu dans un garage, j'ai vécu dans l'usine de mon grand-père.
Usine de quoi ?
Une usine en fait de traitement des déchets déjà à l'époque, puisque en fait il a inventé le polyuréthane. Donc en fait il traitait des petites billes de plastique j'imagine. C'était transformé en billes et après c'était retransformé dans une autre matière. Donc déjà, il était précurseur. D'ailleurs, sur son passeport, c'était marqué « inventeur ». Bon, bref, ça, c'était la petite aparté. Non, moi, en fait, d'où je viens, d'une famille d'entrepreneurs...
Donc, famille aisée.
Pas forcément, parce que, tu sais, à l'époque, quand je te dis à l'époque, c'était dans les... Moi, je suis née dans les années 70. À l'époque, donc, c'est-à-dire après-guerre... il y avait pas internet, il y avait pas l'international, donc en général, t'étais le bourgeois de ton coin. Donc moi, en l'occurrence, on était des bourgeois de Lyon. Mais tu vois, c'est pas non plus des réussites internationales.
Quartier des Nains. Vous habitiez à Ainay?
Non. On habitait à la Croix-Rousse, mais voilà. Donc c'est.
Ah, c'était pas très bourgeois la Croix-Rousse dans les années 70.
On est bien d'accord.
C'est voilà. Pas... Donc. Tu m'aurais dit Ainay, oui, c'est voilà. Le quartier c'est un peu les Versaillais de Lyon.
Voilà. Mais il faut pas faire toujours le corollaire ouais. De chef d'entreprise égale richissime.
C'est pour ça que j'en parle.
Voilà. tu peux très bien, voilà, t'as des gens qui vont monter leur boîte pour juste monter finalement un an déjà leur propre emploi plus un ou deux, tu vois. T'as des petites boîtes de ménage, ça tourne à trois personnes. Le papa, la maman et le fils. Mmh. Et ça marche très bien. Ils seront jamais richissimes. Mais n'empêche qu'ils ont leur emploi, ils n'ont pas de patron qui leur casse la tête. Ils vivent un peu leur vie comme ils veulent. Et ils sont heureux. Donc l'entreprise, c'est pas forcément la grosse multinationale au sens où on l'entend.
Ce que je veux dire par là, c'est que petite, t'avais une vie facile parce que les moyens étaient là ou alors c'était plus
ben non,
une
c'était
vie
dur parce qu'en réalité, moyen. T'as des parents absents parce que il faut la faire tourner l'usine et puis d'une usine, ça tourne à 24. Enfin, tu vois, moi, la première expression que j'ai apprise, c'était les 3-8, tu vois. Donc c'est pas forcément une enfance facile. Une enfance facilitée, ouais, certes, mais pas une enfance facile du tout. Moi, mes parents m'ont jamais amené le mercredi jouer au square. Enfin, tu vois, je suis jamais partie en vacances avec mes parents.
Tu faisais quoi le mercredi?
Bah, j'allais au centre de loisirs comme tout le monde. Tu vois. Voilà. Donc non, ça c'est des clichés, ça.
À l'école publique,
ça.
École privée.
École publique, voilà, parcours école publique, tellement public que finalement j'ai fini par être prof pendant 10 ans, prof de maths.
Donc en fait, t'as fait primaire, collège, lycée, Croix-Rousse.
Ouais. Puis après, je suis partie à Paris faire mes études, etc. Mais
Et prof de maths, c'était quoi? C'était bac plus 2 à l'époque, je crois, prof de maths.
Oh, c'était une licence, bac plus 3.
Bac plus 3.
Donc, tu vois, c'était pas non plus...
Donc, t'as fait ta licence à Paris et après, prof de maths.
C'est ça.
Donc, le truc, tout le monde, voilà, c'est...
Accessible à tous.
Ouais. Hein, sachant qu'en plus, aujourd'hui, quand on voit... qu'ils prennent comme prof, ils prennent tout le monde, tellement personne veut y aller.
Ah bah ça, en même temps, on les comprend un peu, mais... Enfin, surtout à Paris, parce que prof, tu vois, c'était 1006, 1008,
au départ,
100 euros.
Ouais.
Quand t'as des loyers où le moindre studio est à 900 euros, c'est pas évident, quoi.
Ah, oui,
je comprends qu'à Paris, ils aient du mal à recruter.
Un peu raide, ouais.
Ouais, c'est un peu dur. C'est très trivial comme remarque, mais n'empêche qu'au quotidien, tu t'as pas fait des études pour traîner la langue dès le 10 du mois, quoi. Enfin, tu vois.
Et avec des parents entrepreneurs, t'as fini prof de maths.
Ouais.
Où est-ce que ça
c'est
a
la
loose,
hein.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Non, en fait, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que tu te dis, voilà, monter une boîte pour monter une boîte, c'est à la portée de tout le monde. Mais moi, je me suis toujours dit, si je monte une boîte, c'est pour cartonner. Sinon, ça sert à rien. Donc, j'avais pas l'idée, j'avais pas forcément la thune. Voilà, donc ça a fait son cheminement, ça a pris 10 ans. Ça a pris 8 ans, exactement. Ça a pris 8 ans où j'étais prof. Et les 2 dernières années où j'étais prof, le matin, je donnais mes cours et le soir, j'étais dans un incubateur pour apprendre à ce que c'est une boîte, comment on la monte, etc. Ça a duré 2 ans. Après, je suis partie en dispo pendant 2 ans. Donc, je me suis donné un petit parachute, entre guillemets, de 2 ans, de me dire, voilà, soit ça réussit et ciao, je serai plus jamais prof, soit ça ne réussit pas. Puis bah je réintègre ma fonction, enfin.
Donc 4 ans prof de maths où t'as atterri, tu t'es posé, 2 ans d'incubateur et 2 ans de dispo, c'est ça?
Non, 8 ans prof de maths et 2 ans où j'étais à prof de maths le matin, monter ma boîte l'après-midi.
D'accord. Ah oui, c'était en même temps l'incubateur. Et
ouais,
le...
c'est ça. Bah 95-2005, grosso modo.
Et alors pour ceux qui le savent pas, quand vous êtes fonctionnaire et vous pouvez prendre des disponibilités. Mmh. Bien, vous dites à votre patron, t'es sympa, je t'aime bien, mais en fait maintenant je vais venir à mi-temps ou je viens plus du tout pendant 2 ans. Et c'est ce qu'on appelle la mise en disponibilité. Et la plupart des gens disent ah mais c'est trop bien, c'est encore un avantage de fonctionnaire. Sauf que dans le privé c'est pareil. Pour ça s'appelle le congé création d'entreprise ou le congé sabbatique, ça dépend des modalités.
C'est ça.
Mais moi typiquement j'ai démarré avec un CCE. Avec un congé création d'entreprise et vous dites à votre patron bah en fait je viens à mi-temps et vous dire oh, ça m'embête. Alors vous avez des chances de tuer un peu votre avancement pour les années qui viennent, parce que quand vous lui dites je pars un an ou deux ou je viens à mi-temps, forcément vous avez plus la hype. Mais c'est une vraie sécurité et du coup on peut faire ses conneries sans trop prendre cher.
Alors moi, je parle.
On peut limiter son risque, quoi.
Alors, effectivement, ça limite fortement le risque, et ça, c'est quand même plus agréable de se dire que si jamais je plante, je suis pas à la rue. Ça, c'est quand même. Mais il faut savoir que quand on monte sa boîte, ça vient des tripes. Il y a un moment donné où on peut plus faire un autre métier, en fait. En réalité, on veut être chef d'entreprise, et il y a que ça qui compte. Au début, la création d'entreprise, c'est tellement chronophage que vous pensez création d'entreprise, vous pensez business, vous pensez client, vous pensez facture à payer, enfin. Ça vous bouffe la tête H24, donc et même quand vous dormez, vous réveillez la nuit en vous disant comment je fais, ah mais ça c'était génial, j'ai une idée, etc. Ça vous prend tellement la tête que de toute façon vous serez mauvais si vous restez dans votre job. Donc de toute façon votre avancement vous l'aurez plus. Donc autant y aller. Enfin, il y a un moment où.
C'est quoi? C'est mon experte comptable quand j'avais monté ma première boîte, elle me disait et puis je lui posais des questions et si jamais je reviens et toi elle me fait t'inquiète pas. D'expérience que j'ai, quand t'es patron, tu redeviens plus salarié. Tu remontes une autre boîte.
C'est ça, exactement.
Tu signes.
C'est ça.
Tu valides.
Je valide. Et je valide d'autant plus que toutes les personnes, tu sais, qui perdent leur job. Alors, qu'on parle du cadre qui partent avec un gros chèque et qui se dit bon, bah, allez, je vais monter ma boîte. Ça va jamais marcher.
J'en ai vu plein revenir.
Le chômeur qui sont à la NPE en fin de droit et la NPE leur dit, enfin Pôle emploi leur dit, oh bah montez votre boîte. Ah ouais, génial. Ça va pas marcher. Ah. Faut jamais que ce soit une création par défaut. La création d'entreprise, c'est parce qu'il y a déjà un vrai besoin qui répond à un marché. Parce que si vous avez inventé le radio réveil en 2020, j'ai envie de vous dire que ça sert pas à grand chose, même si c'est génial. Donc faut répondre à un marché. Et puis surtout, il faut en avoir les épaules et l'envie, parce que il y a rien de.
Alors c'est quoi les épaules? Parce que l'envie, on comprend bien.
Les épaules, en fait, moi, comme je dis, la première des qualités d'un bon chef d'entreprise, c'est d'être endurant.
À la douleur.
Alors ça, c'est la résilience. Mais être endurant à tout, au succès, parce que quand c'est le succès, c'est un marathon. Enfin, je veux dire, d'être en phase de croissance, c'est un marathon. Enfin, tu vas jamais courir aussi vite que quand tu seras en croissance. Et quand ça décolle pas. Bah, il faut être vraiment endurant pour se dire ok, je courbe le dos parce que je sais que au bout du tunnel ça va exploser. Voilà, donc dans tous les cas t'es jamais dans une situation où t'es à la cool, quoi. Jamais. D'ailleurs on le dit, hein, les fameuses montagnes russes, c'est pas une légende, hein. Et ceux qui me disent je veux être patron parce que je veux plus rien foutre, mort de rire. Reste aux 35 heures, tu verras, c'est rien, parce qu'une semaine de patron, c'est plutôt 60, voire 70 heures. Mais quand on fait ce qu'on aime, on compte pas les heures. Donc on n'a pas l'impression qu'on travaille comme un forcené.
Et pourquoi c'est drôle, patron? Pourquoi t'as voulu être patron? Petite, c'était qui ton modèle?
Moi, mon modèle, c'est mon grand-père. Mais moi, je voulais pas être patronne, je voulais être chef. Moi, je voulais être chef, voilà.
Donc une tyran?
Eh ben à l'époque, ouais, c'est l'idée que j'en avais, parce que à l'époque c'était vraiment, enfin c'est Louis de Funès dans La Folie des Grandeurs ou dans Le Petit Baigneur quand il défonce tout, hein, tu sais. C'est un peu ça, hein, c'est le chef. Mais ça, c'était les époques. C'était voilà, après guerre, tous les chefs étaient des tyrans. Et aujourd'hui, on va te parler de management, on va te parler de bienveillance au travail, de qualité de vie au travail. Mais tout ça, c'était du bullshit dans les années 70. Donc oui, je voulais être chef. Voilà.
Et chef, donc c'est l'autorité qui te plaisait? C'était le dire au moins, c'est moi qui dirais?
Non, c'est la liberté liée à ce statut. Parce qu'en réalité, des chefs, t'en as plein. Enfin, je veux dire, tu dois rendre des comptes à l'État, tu dois rendre des comptes à ton comptable, tu dois rendre des comptes à tout le monde, à l'URSSAF, au fisc, à tes syndicats, enfin.
Aux salariés.
Ouais, alors ça, aux salariés, t'as des patrons qui s'embêtent pas avec ça, hein. Mais n'empêche que des chefs, entre guillemets, t'en as plein. Mais c'est l'idée de te dire que, bah, tu fais un peu ce que tu veux quand tu veux. Mais tu sais que le travail sera délivré, par contre. Moi, ce que j'aime dans la fonction de chef d'entreprise, C'est déjà, il y a le mot chef. Et ça, même c'est, si c'est chef ça, de c'est moi-même. Cool. Voilà. Et puis surtout, c'est ce qui engendre, ce qui est caché derrière le mot chef. C'est-à-dire que, en réalité, personne va te dire tes horaires de travail, c'est ça, ça, ça. Ou, aujourd'hui, tu fais ça. Ouais, mais je le ferai demain. Non, tu le fais aujourd'hui. En réalité,
Ouais, mais quand on est patron, on a plus de contraintes horaires parce qu'on fait que bosser, en fait.
Bah, tu fais que bosser ou, moi, comme je dis, je fais que m'éclater. Parce que
bien sûr,
moi, il n'y a pas un jour où je me suis dit « Ah, je vais au travail, ah, ça m'ennuie, ah, j'ai pas envie. » Non, parce qu'en réalité, quand tu es chef d'entreprise, tu sais jamais à quoi va ressembler ta journée.
Non, mais c'est ça dur, qui est rien que sur le sommeil, rien que sur le...
Ah, mais c'est pour ça que je te dis que la première des qualités, c'est d'être endurant. Le sommeil, c'est quoi ça? Le petit truc, là, entre 1h du matin et 5h. Non, c'est... voilà, la première des qualités, c'est d'être endurant. Ça, c'est... Moi, je pense que si tu es feignant, tu peux pas. C'est
déterminé impossible. Ou endurant? Parce que je trouve
faut
que
un peu les deux, un peu les deux, parce que déterminé. Alors, c'est un peu compliqué. Faut pas confondre déterminisme être déterminé et être obstiné. Déterminé, c'est bien. Obstiné, c'est toute la différence. Tu vois, Fillon, il a été obstiné. Alors que Macron, il était déterminé.
Ah ouais.
Tu vois? C'est-à-dire que Fillon, tout le monde lui disait les indicateurs sont au rouge, tu vas te faire éclater, tu vas te faire un tôle. Non, j'y vais. Résultat. Procès, tu vois. C'est toute la différence. Être déterminé, c'est important parce que ça te donne le cap à suivre. Mais entre déterminé et obstiné, la différence, c'est que le déterminé, il va écouter son entourage.
Pas tomber amoureux de ses idées?
Ça, je ne sais pas, parce qu'il en faut un petit peu. Sinon, si toi-même, tu crois pas en ce que tu dis, ça va pas marcher. Mais pas que, tu vois. C'est te dire, si tout le monde te dit que ton service, c'est bien, mais tout le monde le propose et 4 fois moins cher, peut-être l'entendre.
C'était quoi ton rêve de l'entrepreneur, ta grande ambition quand tu t'es dit je vais monter une boîte, je vais faire quoi? C'était quoi ton ambition?
Je vais
ambition
changer le monde. Et je change le monde. Enfin, à mon échelle. Mais je peux te dire que mes 1500 cleaners, j'ai changé leur vie.
Mais c'est quoi? C'est de dire moi je vais faire mieux que les autres?
Non, je vais faire différemment. Je vais faire selon ce qui dans mon monde absolu à moi est mieux. Tu vois, par exemple, le fait que mes 1500 cleaners peuvent voir grandir leurs enfants, ont tout leur week-end et se travaillent que 7 heures par jour et non pas sur 15 heures pour être payés 3, bah ça change le monde, ça. En tout cas, ça change leur vie.
Et donc, c'était ça ton envie, toi?
Ouais. Bah, tu sais, quand j'ai monté ma boîte en 2005...
Et comment t'en es venu au ménage? Parce que le ménage, entre prof de maths et le polyuréthane, le ménage, il est pas dedans, quoi.
C'est clair. Mais en même temps, quand ton ambition, c'est de changer les lignes... Eh ben, tu vas sur un secteur où les lignes sont possiblement changeables. Tu vois, je vais pas changer les lignes dans la finance, par exemple. Tout le monde fait la même chose parce que c'est encadré, parce que genre. Mais là, je me suis dit, attends, t'as 27 000 entreprises de nettoyage sur Paris, elles font toutes la même chose. Bah là, il y a un facteur différenciant, c'est les produits écologiques et le travail de jour.
Et ça, en 2005, comment tu l'as vu? Comment t'as vu
mais
ça?
Mais parce que je voyage beaucoup, faut être ouvert sur le monde. Et quand tu t'aperçois que dans n'importe quel pays, les gens qui font le ménage, tu les vois, tu te dis ah bah tiens eux, ils les cachent pas, bah peut-être qu'il y a quelque chose à faire.
Alors, à reprendre, c'est intéressant ça. T'es prof de maths.
Ouais.
On est d'accord. Donc dans un collège.
Non, je suis prof de maths par défaut.
Ouais, mais dans un collège.
Donc ça veut dire que tous les matins quand je me lève, je me dis est-ce que ce soir j'aurai eu l'idée de ma boîte.
Ah oui, d'accord. Déjà. Mais quand même, prof de maths, ça veut dire que t'as des heures à assurer
oui,
au collège.
Au lycée.
Au lycée. Ouais. Et que du coup, ta vie, elle est quand même centrée autour de chez toi et du lycée.
Ouais, mais en fait,
après, t'as beaucoup de vacances.
Le nombre d'heures que fait un prof.
Vas-y.
19 heures par semaine. Ça va, ça te laisse du
temps. Oui, t'avais pas d'enfant.
Non, j'avais pas d'enfant.
Et pas de bonhomme.
Et pas
supporter.
De mec.
Donc,
ouais.
Donc ça libère du temps.
Ça libère du temps. Mais quand tu travailles 19 heures par semaine, même si tu mets le temps de préparation, parce que je dis pas que les profs sont des fainéants, mais enfin, ceux qui se plaignent, je dis attendez. C'est pas moi que vous allez raconter ça, hein. Surtout en maths, hein. Prof de français, je dis pas, il y a un peu plus de préparation, mais prof de maths, préparation, elle est pas non plus, c'est pas une heure pour une heure de face à face, hein. C'est quelques minutes pour une heure de face à face. Donc, grosso modo, sur les 19 heures de face à face que je devais assurer, allez, je travaillais 30 heures, tout inclus. Heures et 13 minutes quand même.
Et du coup, tu te dis, je veux monter une boîte, il faut que je cherche. Donc, t'es dans cette optique-là.
Bah, je suis dans l'optique de j'ai pas vraiment de budget, j'ai pas vraiment de formation, une formation académique, tu vois, tu es pas vraiment experte dans rien finalement, donc tu te dis, bah, y a une chose intelligente, c'est de prendre le compass. À l'époque, c'était un gros annuaire de toutes les entreprises. Et puis, t'épluches tous les bilans. Et puis, en fait, tu te rends compte qu'en écrémant, en écrémant, en écrémant, ça prend un an, hein, bah, tu t'aperçois que, déjà, une entreprise de service, il n'y a pas besoin de gros apports capitalistiques, ni de brevets, ni de formation. Et puis après, tu te dis, bah, dans ces entreprises de service, si tu continues à la technique de l'entonnoir, tu t'aperçois que, bah, soit t'ouvres une boîte qui fait une boîte de vigile, de sécurité, soit une boîte de ménage. Boîte de vigile, je me dis, oh là là, si j'arrive pas à les payer, ils vont me casser la gueule. Donc, je me suis plutôt allée sur le ménage, en fait, moins risqué.
Donc, t'as pris le compass et ouais. t'as analysé ouais. le bilan pour voir quel était...
Bah, écoute, si tu me trouves quelqu'un qui a une appétence pour le ménage en me disant, je veux monter une boîte de ménage, tu me le présentes.
Hein. Mais justement...
C'est personne, enfin, je veux dire, tu prends pas le ménage parce que t'as une passion pour le ménage. Enfin, tu prends le ménage parce que tu te rends compte que ça peut répondre à un besoin et que tu peux le proposer de façon alternative.
Et toi, ce que tu as regardé, c'est ce qu'on appelle la densité capitalistique. Tu t'es dit, je peux démarrer avec zéro.
Avec 10 000 balles. Mm.
Et après, du coup, tu as dit, ah tiens, dans le ménage, t'es arrivé au ménage parce qu'il y avait besoin de 10 000 euros, quoi.
Non, je suis arrivé dans le ménage pour deux raisons. La première, effectivement, elle est capitalistique. Parce que moi, j'ai démarré avec 10 000 euros. Parce qu'en grosso modo, tu achètes deux aspirateurs, trois balais et quatre microfibres. Et que les salaires, tu les payes 30 jours après. Et en général, entre-temps, si tout se passe bien, ton client t'a payé avant que tu puisses sortir les salaires. Donc, ça c'est en théorie, mais
à en parler.
Voilà, mais en tout cas, ça demande pas un gros investissement. Enfin, je veux dire, j'avais pas de bureau, j'avais pas de locaux, j'avais pas de véhicule. Enfin, voilà, c'est vraiment ces 10 premiers.
Donc c'est ça que t'as identifié. Tu t'es dit, moi, avec 10 000 voilà. euros, je peux lancer un business dans le ménage.
Exactement.
Et après, du coup, comment t'as trouvé? Parce que gagner de l'argent, pour moi, c'est avant tout rendre service, être utile.
Pour... C'est répondre à un besoin.
Voilà. On passe rarement devant chez le coiffeur, on lui file 15 balles en disant « Tiens, tu me couperas les cheveux plus tard. » Mmh. Ça marche pas, ça.
Non.
Donc, comment t'identifies le besoin nouveau auquel tu peux répondre dans le ménage? Parce que du coup, tu connais rien. Toi, t'es prof de maths, tu te dis « Allez, sur les bilans, là, il y a peut-être un truc à faire.
Mmh. »
Alors,
quasiment 100% des gens vont te dire « Quand je monte une boîte, c'est je vais regarder par rapport au marché. Qu'est-ce que je peux apporter au marché ?» Moi, j'ai pris l'inverse. J'ai dit, qu'est-ce que je peux apporter à des salariés? Et de là, j'ai monté mon business model. Et c'est ça que j'ai vendu à mes futurs clients. J'aurais vendu la qualité de vie au travail et du respect de l'environnement avec des produits écologiques. Et c'est ça que j'ai vendu, en fait.
Et ils achètent ça, les gens, au début?
Mais oui. Alors, les produits écolos, en 2005, honnêtement, ils
sont foutés.
Hein.
Ouais, on va être clair. C'est bien avec le Grenelle de l'environnement, voilà. Un petit peu, en 2007.
Mais n'empêche que, sur le travail de jour, ça a tilté tout de suite. Effectivement, on passait les premières réticences sur « Ouais, mais l'aspirateur, ouais, ça fait du bruit, machin. » Une fois que tu les as rassurés, que tu as fait de la pédagogie là-dessus, après, j'ai envie de te dire, vous savez, vous pouvez aller plus loin. On va mettre des produits écologiques. Puis vous savez, on va faire plus loin. C'est-à-dire que là, au lieu que vous me disiez « Elle vient 2 h le matin, elle vient 2 h le soir », bah vous allez la mettre entre 10 h et 14 h. Ça le fera vos 4 h, mais elle, ce sera sur un temps de travail condensé. « Ah ouais, d'accord. Okay. » Voilà. Donc en fait, tout ça, c'est co-construit avec les clients, en réalité.
Et qu'est-ce qui leur plaît aux clients? C'est quoi la valeur dégagée pour eux?
La valeur ajoutée, non pas la valeur dégagée, parce que on l'a dit, on est un petit peu plus cher. Donc, mais la valeur ajoutée, c'est de se dire, je fais bien les choses. Je suis, tu vois, même mon personnel de ménage, il est intégré. Et ça, c'est tout bête, mais ça a une grosse valeur pour eux. Puis ça a une grosse valeur.
C'est de l'estime, quoi. C'est de l'ego, c'est de l'estime.
C'est pas de l'ego, c'est de se dire.
Dans le bon sens du terme, hein, mais de l'ego en disant, allez, je traite bien mes gens, quoi. Tu vois, je respecte mes gens.
C'est-à-dire que voilà, on est face à de plus en plus d'entrepreneurs qui ont cet état d'esprit et puis cette bonne conscience, tu vois, de se dire, bah oui, mais ça se fait plus d'être un entrepreneur esclavagiste, enfin, tu vois. Voilà. Donc. Là maintenant, c'est plus un frein. Mais même le prix, hein. Je veux dire, ça n'a jamais été un frein. Hein. C'est quand les contrats ont capoté, ça n'a jamais été pour.
Le ménage, c'est pas un gros poste dans l'entreprise.
Si tu y mets les moyens, c'est un gros poste. Enfin, ça fait partie des frais généraux. Si. Par contre, c'est le poste sur lequel personne veut lâcher aucun centime. Ouais. Si ça pouvait être gratuit, le ménage, ce serait bien. Tu vois.
Sans deux coups.
Ouais. C'est ça. Quand tu vois, on me dit, ouais, mais 23 euros, c'est cher. J'ai OK. Votre coupe de cheveux, vous la payez combien? Elle paye 45, d'accord. Vous êtes resté combien de temps? Bah, 3 quarts d'heure. OK. Donc, grosso modo, vous avez payé 60 euros de l'heure, on est d'accord. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc, non, le prix a jamais été un frein.
Comment tu trouves tes premiers clients? Parce que tu te dis, ah, j'ai mon bilan, j'ai une idée. Comment, tu vois, t'es toujours, faut bien se mettre dans le truc. Je suis prof de maths, tu vois, je vais au boulot. Ça marche aussi avec employés dans tous les sens.
Ouais, hein. C'est ça, ouais.
Comment tu te dis, comment je teste mon idée?
Le plus important quand tu te lances, c'est le réseau. Ça, c'est hyper important. Moi, tu vois, pendant 2 ans, j'ai été dans un incubateur. Donc, un incubateur, une pépinière d'entreprise. Hein.
Qu'est-ce qu'on fait dans un incubateur? Ça veut dire quoi, incuber?
Maintenant, on appelle ça des accélérateurs. En fait, t'apprends justement à comment on démarche les gens, comment...
Des cours du soir? Enfin, ou du matin?
Ouais, c'est une espèce de petite école de commerce en accéléré et en survolé, grosso modo. C'est, tu vois, c'est la législation, mais c'est surtout des techniques aussi, des techniques d'approche marketing, des techniques commerciales. Enfin, c'est on va t'accompagner. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des profs, t'as des vrais chefs d'entreprise qui te disent, moi, j'ai testé ça, ça a marché. Ça, au contraire, ça fait un four, etc. Donc, l'accompagnement, c'est hyper important. Moi, je dis à toute personne qui monte son entreprise, ne vous lancez pas seul. Mettez-vous dans un incubateur. C'est la condition sine qua non. Une entreprise non accompagnée, au bout de 3 ans, elle périclite, 1 sur 2. Et encore, 30% de ces 1 sur 2 qui ont survécu périclite au bout de 5 ans. Alors que quand t'es accompagné, en général, tu passes allègrement le cap des 3 ans et encore plus rapidement, de façon de plus confortable, le cap des 5 ans. Donc c'est hyper important. Puis ça va t'apprendre à te constituer un réseau. Quand tu lances un service commercial, si t'as pas de réseau, tu vas pas aller faire du porte-à-porte ou donner des flyers. Enfin, tu vois, clairement, le réseau, c'est hyper important. Et moi, je te parle de 2005, il y a pas les réseaux sociaux, il y a pas Facebook Ad, il y a pas Google Ad, il y a pas tout ça. Hein. Donc, c'est vraiment le réseau, le réseau, le réseau. Et puis après, c'est le bouche à oreille. C'est toujours pareil. Mais faut pas tout de suite se dire, je vais faire fortune en 1 an. Enfin, ça n'existe pas. C'est vraiment, tu te dis, j'y vais et puis ça prendra le temps que ça prendra, quoi.
Et les premiers clients, c'est toi qui allais faire le ménage ou tu vois comment tu démarres, comment tu démarres?
Alors comment tu démarres?
T'as des cours du soir?
Ouais. Alors concrètement, tu fais pas le ménage parce que déjà t'aurais aucune crédibilité vis-à-vis de tes clients déjà. Par contre, tu testes tout ce que tu leur demandes de faire à tes cleaners. C'est-à-dire que moi, j'ai tassé des bennes, j'ai passé la machine, parce que c'est tout bête, mais tu vois, demander à un mec de passer 8 heures par jour l'autolaveuse. Non, parce qu'en fait, ça vibre une autolaveuse. Et tu peux pas, parce que t'as mal aux mains, t'as des ampoules. Mais ça, si tu l'as pas testé, tu peux pas le savoir. Donc voilà. Donc, j'ai fait en off tout ce que je leur demandais de faire. Ne serait-ce que pour pas qu'ils m'embrouillent en disant, mais il me faut 5 heures. Non, je sais qu'il en faut que 2. Tu vois, c'est aussi dans les deux sens.
Et en plus, c'est moi qui le fais. Donc, c'est au moins 1 heure et demie.
Voilà. Donc, c'est dans les deux sens. Mais après, pareil, parce que tu vois, t'as des clients qui disent, mais moi, mon appartement, je le nettoie en 1 heure. Ouais, mais c'est 1 heure tous les combien de temps? Là, lui, c'est 1 heure fois 7 fois. Donc, c'est 7 heures par jour. Je peux vous assurer que la dernière heure, il n'est pas aussi frais que la première. Ah oui, c'est vrai, gnagnagna. Voilà. Donc, c'est important d'avoir testé pour savoir de quoi on parle. Moi, j'ai testé, 7 heures de ménagement, tout ça. Mais j'ai jamais été aussi fatiguée de ma vie, Franchement. Donc, du coup, tu te dis, OK, faut quand même mieux les rémunérer parce qu'honnêtement, ils font un travail de chien. Donc, c'est aussi la rémunération, elle est issue de ça. Elle est issue du fait que j'ai testé. J'ai dit non, mais on peut pas. Enfin, c'est pas décent. Le SMIC pour ça, c'est pas possible. Voilà. Et puis après, tes clients, c'est toujours pareil. T'en as un, t'en as deux, t'en as trois, t'en as cinq.
Mais le premier, il est venu comment?
Le premier par réseau, en fait. Voilà, tout simplement. J'avais entendu dire que telle boîte cherchait une boîte de ménage et du coup, je les ai appelés en disant voilà, je vous appelle de la part de machin. Puis après, t'as un coup de chance aussi, tu vois. Moi, par exemple, j'étais chez le coiffeur, un des premiers clients. J'étais dans une période un peu down en me disant, ah là là, j'ai qu'un seul client, Et en fait, je vais chez le coiffeur, et puis là, t'as le patron qui rentre en furie et qui dit, la boîte de ménage, vous l'avez trouvée, oui ou merde? Et là, tu vois, je tombe chez, et là, je dis, c'est la chance de ma vie, là. Donc là, c'est pas que j'écoute, mais j'ai une boîte de ménage. Genre, j'avais une boîte de ménage super grande. Je savais pas que j'avais qu'un seul client. Et puis après, tu retournes dans la rue, chercher plein d'autres cleaners, comme je t'ai expliqué. Et puis tu montes ton équipe. Voilà. Comment ça se passe? Et en fait, ce fameux coiffeur-là, en fait, il avait des chaînes. Donc, il avait pas un coiffeur, il avait 17.
Tu rêvais de quoi quand t'étais ado?
D'être chef.
T'avais le portrait de Napoléon au-dessus de ton...
Pas du tout. Non, en réalité, moi j'avais le portrait de Yuri Gagarin, parce que moi je voulais être astronaute, en fait, en vrai. Ah. Mais ça, c'est le rêve de tout le monde. C'est comme quand ton petit dit « je vais être pompier ». Ça, c'est le rêve ultime. Mais comme t'es dans la vraie vie, tu te dis « je vais avoir un backup quand même ». Donc moi, mon backup, c'était chef. Voilà.
On avait parlé, parce qu'on prépare les émissions, le premier, un gros échec justement que tu as vécu pour montrer, et puis on parlera après du risque, parce que beaucoup de gens se disent, vous savez, être salarié c'est sans risque, et être patron c'est avec du risque, par rapport à là. Qu'est-ce que c'est un gros échec, un gros gadin que tu as dû essuyer
Alors, j'ai eu de la chance dans mon malheur, parce que je vous ai dit que la première des qualités, pour moi, à mon sens, du chef d'entreprise, c'est d'être endurant. Et la deuxième, c'est d'être résilient. Moi, il m'arrive que ma boîte, elle a même pas un an d'existence. Elle en avait, je sais plus, 3-4 mois d'existence. Et là, gros impayé. Mais quand je dis gros impayé, c'est 17 000 euros. 17 000 euros, aujourd'hui, ça fait sourire. À l'époque, 17 000 euros, quand ton contrat de base, il est à 400 balles, je te laisse imaginer. Donc là, passer l'euphorie de « ouais, j'ai signé un truc à 17 000 euros !» Ah bah ouais, j'ai des dettes pour 17 000 euros. Donc là, ça, heureusement finalement, dans mon malheur, j'ai eu cette chance-là.
Donc tu te dis quoi? Tu te dis à ce moment-là, tu te dis je suis planté?
Bah,
je suis cuite? Enfin...
Bah non, parce que naïvement, tu le crois quand il te dit qu'il va te payer en fait.
Ah, le moment où tu te dis il me payera pas.
Voilà. Et en fait, bah là, tu te dis waouh. Donc là, tu t'appelles ton avocat. Parce que le chef d'entreprise, il a toujours un avocat, c'est comme dans les films. Et là, il te dit bah il y a qu'une seule solution, c'est de planter la boîte. Et là, tu te dis ah bah ouais, mais là
pour planter les dettes avec.
Ouais, c'est ça. Et là, tu te dis bah non, parce que moi, les mecs, ils ont travaillé. Je peux pas aller les regarder droit dans les yeux en disant, parce que pour 17 000 euros, t'imagines que t'as eu un paquet de mecs qui ont travaillé un paquet d'heures.
C'est du salaire, voilà, les 17 000 euros essentiellement.
Exactement. Voilà.
Donc c'est planter des mecs qui sont au SMIC en disant voilà, votre pognon, vous le verrez jamais.
Alors les mecs qui sont pas au SMIC chez moi, mais c'est des mecs qui sont payés, enfin qui en l'occurrence, j'allais annoncer qu'ils seraient pas payés alors qu'ils avaient travaillé. Donc là, du coup, tu dis déjà, je vais perdre toute crédibilité parce que le jour où je remonte une autre boîte, ben ces mecs-là, ils vont en parler et puis t'auras plus personne. Et surtout, tu te regardes dans la glace en disant, mais attends, ils y sont pour rien. Enfin, tant pis, bah, je prends mon risque. Et là, tu vas voir ta banque, tu pleures un peu, ils te font un crédit, t'appelles ton propriétaire en disant, bah, vous savez, pendant 3-4 mois, je vais pas pouvoir payer l'intégralité du loyer. Là, dans ton malheur, t'as de la chance parce que le mec, il dit, OK, mais je comprends, moi-même, je suis dans ton entreprise. Par contre, je vous fais un échéancier, vous le respectez, etc. Et puis, t'as ta banque qui dit, OK, mais vous avez le droit de retirer que 20 euros par semaine. Donc là, t'es dans une situation où tu peux même plus payer les timbres et l'enveloppe pour envoyer tes factures d'après. Enfin, donc tu appelles tes potes, tu dis voilà, tu peux pas me voler quelques timbres dans ton entreprise, quelques enveloppes. Enfin, c'est l'école un peu de la débrouille, tu vois. Mais c'est une période moi qui m'a marquée forcément et qui fait que bah je sais d'où je viens et je sais ce qui peut se passer quoi. Donc je suis jamais super euphorique, je suis jamais à me dire c'est acquis quoi.
Parce que quand tu quand ton client te plante, tu dis c'est pas de leur faute au gars qui faisait le ménage, ce qui est vrai, mais c'est pas de la tienne non plus. Est-ce que tu sous-entends qu'il y a une responsabilité de l'entrepreneur de prendre les coups entre le marteau et l'enclume quoi?
Mais c'est même le seul rôle du chef d'entreprise. C'est le seul, comme je t'ai dit précédemment, moi mes cleaners, s'ils me voient une fois par an, c'est le bout du monde. Ils connaissent leurs clients. Moi, je ne suis que le tiers de confiance. Le tiers de confiance qui garantit leur salaire, avant toute chose. Donc, non, le chef d'entreprise, c'est sa responsabilité. D'ailleurs, tu as une responsabilité pénale, fiscale. Tu peux. C'est quand même le seul métier où tu peux te retrouver en taule alors que tu n'étais ni sur le lieu du crime, ni même que tu en as eu vent. Enfin, non, mais c'est vrai, faut le dire. Donc non, c'est ta responsabilité. En fait, t'es responsable de ton troupeau. Enfin, t'es le berger. Hein. C'est ton rôle premier.
C'est pas toi qui bosse, enfin qui fait le travail sur le terrain, mais c'est toi qui est responsable du résultat, quoi. C'est un peu ça.
Mon travail n'est pas d'être opérationnel.
C'est d'être responsable.
Mon travail est d'être responsable et de faire en sorte que tout se passe bien et qu'ils aient de quoi manger à la fin du mois. C'est ça mon travail. Moi, mon travail, c'est pas d'aller vérifier si c'est bien fait, c'est pas d'aller, quand il y a un absent, prendre son balai et faire à sa place. Mon travail est d'aller chercher des clients et faire en sorte qu'ils payent.
Est-ce que tu es d'accord si je te dis la liberté c'est être responsable de ses échecs et de ses réussites.
Mais la liberté, c'est un état d'esprit déjà. T'as des gens qui seront jamais libres dans leur tête, en fait. Moi, je suis libre. Mais t'en as plein qui te disent moi, chef d'entreprise, moi, je préfère rester salarié, au moins, c'est sûr, etc. J'ai pas de responsabilité. Bah, si, t'en as quand même un peu, quand même. Et puis, elle est pas sûre du tout, ta place, parce que demain, ton CDI peut sauter, enfin, encore plus vite que chef d'entreprise, d'ailleurs.
Alors, justement, t'as rebondi comment, toi? Quand t'étais planté de 17 000 euros, ça t'a pris combien de temps pour remonter et comment tu t'en es sorti?
Alors, pour remonter financièrement longtemps, plus d'un an, parce qu'il fallait apurer cette dette, mais commercialement, très rapidement, parce qu'en fait, ce client n'avait pas planté que moi, il avait planté l'ensemble de la chaîne des fournisseurs.
Ce qui n'est pas rare.
Ce qui arrive souvent. Et on s'est tous montés en collectif, alors pas en collectif devant les tribunaux, parce que ça n'existe pas en France, mais en tout cas, on s'est entraidés, c'est-à-dire que dès qu'il y en avait un qui avait un nouveau contrat, bah, il disait embaucher plutôt lui plutôt qu'un autre. Enfin, voilà. Et du coup, on a été une espèce de chaîne de prestataires pendant quasiment un an où on allait tous, dès qu'il y en avait un qui décrochait un contrat, il amenait les copains avec.
Ça t'a propulsé, ça, d'avoir cet effet réseau?
Carrément, ouais.
Donc en fait, cette catastrophe de premier abord qui a dû te miner au plus haut point.
Ouais.
Est-ce que c'est pas un élément clé de ta réussite?
Ou alors j'irais pas jusqu'à lui dire merci quand même, faut pas déconner.
Pas à lui, pas au gars qui t'a planté, mais à cette forme d'enchaînement de...
Voilà. Ce qu'on appelle l'expérience. Et de cette expérience, j'en ai déduit un mantra qui ne me quitte pas en disant c'est un mal pour un bien. Mais je souhaite à personne de le vivre quand même. Hein.
Ah bah c'est jamais agréable.
Voilà, c'est ça.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu es prof... et que tu te fais virer, bon, ce qui est compliqué quand t'es prof, mais sur le principe, voilà, tu perds ton job, tu te retrouves de 1 à 0, quoi. Alors que quand t'es patron, est-ce que tu penses qu'on a une résilience plus forte en tant que patron? Parce qu'on a quand même moyen souvent de se raccrocher aux branches, de rebondir, de se démerder, de nager, c'est comme on disait dans le film, à force de pédaler dans le lait, ça finit par devenir de la crème et puis on peut bien.
Alors, si t'as monté ta boîte parce que c'était...
Et que ce soit pas moins risqué finalement qu'un job où tu peux passer de 1 à 0.
En fait, même en tant que patron, tu peux passer de 1 à 0 en réalité. Mais quand tu deviens, et moi j'aime pas cette expression patron, moi je préfère l'expression chef d'entreprise. Quand t'es chef d'entreprise et c'est un truc qui te prend les tripes, dont tu penses depuis que t'es tout petit, etc., bah forcément que t'as appris la débrouille et forcément t'auras plus d'armes pour rebondir que quelqu'un qui est simple entre guillemets salarié et qui est jamais sorti de sa zone de confort. Patron, enfin, chef d'entreprise, tu sors de ta zone de confort, mais c'est même pas tous les jours, c'est plusieurs fois par jour. Donc forcément au bout d'un moment, bah les situations que t'as déjà vécues 25 fois, elles t'émeuvent moins que quand c'est la première fois quand même.
Tu me disais que t'étais ni heureuse ni malheureuse, t'étais sur la trajectoire.
Alors en fait, j'ai appris effectivement à. Alors on fête tous les succès. Moi, je dis toujours, tu vois, moi, je mentore beaucoup de jeunes qui veulent devenir chef d'entreprise, et je leur dis toujours, vous devez fêter chacune de vos victoires. Le moindre contrat signé, vous allez vous acheter ne serait-ce qu'une glace à la boulangerie, mais vous fêtez ça avec vous-même, même pas besoin d'aller sonner et de le faire avec toutes vos équipes. Juste voilà, vous offrez un stylo, un truc, enfin. Ou une bagnole, ou j'en sais rien, enfin, ça dépend des moyens, mais
ouais,
il faut fêter le truc. Donc ça, moi, j'ai toujours fêté, même encore dernièrement. Sauf que maintenant, c'est plutôt à coup d'appartement et de bagnole plutôt que de stylo, mais il faut fêter le truc. Donc ça, effectivement, tu peux te dire, bah oui, mais t'es heureuse. Oui, mais je le fête parce qu'il faut marquer le coup. Mais je sais que derrière, je vais avoir un retour de bâton parce que la vie m'a appris que la vie du chef d'entreprise, c'est un coup t'es en haut, un coup t'es en bas, un coup t'es en haut, un coup t'es en bas. Et des fois, ça peut être plusieurs fois dans la même journée. Donc, il y a un moment donné où tu vas t'épuiser. Enfin, je veux dire, quand t'es dans l'euphorie, c'est épuisant. Quand t'es dans le down, c'est épuisant aussi. Donc, moi, j'ai appris à être moins enjoué et moins triste aussi.
Stoïque?
Un peu placide. Ouais.
C'est ce que disent les stoïques, ne cherche pas à vouloir transformer le monde, mais adapte-toi et fais ton possible.
Pour changer le monde.
Voilà.
C'est ça. Mais... Voilà. Ça, en fait, tout le monde peut changer le monde à son échelle. Alors, il y en a qui vont le révolutionner, hein. Un pasteur l'a révolutionné. Et puis, il y en a d'autres qui auront juste changé la vie de 1500 familles. Voilà.
Et les projets, alors, dans l'avenir, ça ressemble à quoi, Ecoclean, dans 10 ans, ou qu'est-ce que tu as envie, ou tu te dis, ah, c'est bon, je fais mes 10 premiers millions, après je m'arrête. C'est quoi?
Alors, ça, on les a dépassés.
Non, mais perso.
Ah oui, ça, on n'y est pas encore, mais.
Perso.
Non, en perso, c'est quoi l'avenir? Bah, c'est de continuer à me lever le matin en ayant la patate, parce que le jour où je commencerai à m'ennuyer sévèrement dans mon entreprise, c'est qu'il sera temps de passer le flambeau, en fait. Donc ça, c'est pour l'instant pas d'actualité. Et puis c'est de continuer à être innovant. Tu vois, là, on a digitalisé nos services. C'est la première fois qu'une boîte de ménage se digitalise. Mais il faut pas se leurrer. Bientôt, toutes les boîtes vont se digitaliser parce qu'elles vont se dire, bah tiens, ça marche, c'est accessible, on le fait. Donc, en fait, c'est toujours avoir le coup d'avance. Moi, ce qui me fait me lever le matin, c'est d'avoir toujours le coup d'avance.
Donc, d'être toujours en tension, quoi. C'est-à-dire toujours dire, tiens,
en observation.
Ouais.
Mmh. Ouais. Et toujours dans un but d'amélioration. Là, tu vois, d'avoir digitalisé, bah, ça veut dire que tout est en digital. Donc, ça veut dire que c'est accessible à chaque foyer. Tu vois, la formation se fait en digital, le recrutement se fait en digital. Tout, l'affectation chez les clients se fait en digital. Donc, ce qui veut dire que potentiellement, là, moi, je dis 20 000, j'ai une target de 20 000, mais potentiellement, ça peut être 200 000 clients.
Voilà. Ouais, t'as envie de pousser la machine jusqu'au bout?
Ouais.
Ouais, histoire ouais. De voir un peu où est le...
De voir jusqu'à où ça peut aller, quoi. Mais je sais que moi, je m'arrêterai avant la machine, en fait. Ouais. Parce que je commence à avoir de l'âge, un petit peu, parce que...
Quel âge?
Là, j'ai 48, mais tu vois, il y a un moment donné où bah, je pense que j'aurai moins la patate. Ça fait déjà 15 ans, hein.
Ah, Warren Buffett, il y a 92 ans, il est toujours en manette. Hein.
C'est vrai. Mais non, mais voilà. Mais parce qu'il y trouve son compte. Moi, peut-être que demain, je vais te dire, j'en ai marre. Ou peut-être que je vais te dire, j'ai encore une idée encore plus folle. Je sais pas. Et c'est ça qui est marrant, c'est que tu te lèves le matin, tu sais jamais de quoi va être fait ta journée. Hein.
Et t'aurais envie, justement, de... Enfin, qu'est-ce que t'en penses de l'idée de dire, bah allez, je développe cette idée et puis mon objectif, c'est que quand elle soit autosuffisante, c'est-à-dire que mon idée n'a plus besoin de moi. Mmh. C'est devenu un truc vivant, hop, que je peux lâcher. Et du coup, je vais créer autre chose.
Ah bah, quand j'en serai à ce stade-là, je lâcherai.
En fait, c'est plus marrant une fois qu'on a fait quelque chose.
Ah bah non, mais c'est super chiant, mais c'est pour ça que nous, on innove tout le temps, enfin, tu vois. Donc, il y en a qui vont innover en se disant, je vends la boîte et puis je vais innover sur une seconde boîte. Nous, on innove au sein de notre boîte. Donc voilà, et puis après tu peux toujours ouvrir un autre pays, tu peux, tu vois, c'est l'innovation, c'est aussi s'attaquer à des marchés nouveaux, des législations nouvelles, des monnaies nouvelles, enfin des usages qui sont différents, enfin c'est tout ça, c'est tu peux innover finalement depuis ton bureau parisien, hein, c'est pas ouais ouais.
Donc il y a beaucoup de perspectives encore pour toi.
Ah oui, je pense qu'il y en a encore beaucoup. Après, est-ce que je les mettrai à profit de cette entreprise-là ou plutôt qu'une autre? Ça dépendra des rencontres. Des fois, t'as des rencontres qui te changent une vie. Hein. Moi, mon associé au Canada, on s'est rencontré il y a 2 ans. Et en fait, il était délégué général des Premières, donc qui est le premier incubateur de France pour l'entrepreneuriat féminin. Et il me dit, je veux que tu deviennes ma présidente. Je lui dis, ok, pourquoi pas? J'ai par contre, à une condition. Ça durera que 18 mois maximum. On a fait 13 mois. Et tu travailleras avec moi. Et il m'a dit, OK, mais ce sera au Canada. Parce que mon projet de vie dans 18 mois, c'est d'être au Canada. Je lui ai posé une question simple. Je lui ai dit, est-ce qu'il y a de la poussière au Canada? Il me dit, bah ouais. Je dis, bah alors c'est bon. Pas besoin d'études de marché. Tout le monde a besoin de nettoyage. Voilà comment c'est. Donc voilà. Alors que j'avais aucune envie de, enfin, le Canada n'était pas dans mes targets de pays. Tu vois?
Est-ce qu'on peut entreprendre en France sereinement? Avec le contexte administratif et...
De plus en plus. Moi, tu vois, en 2005, pour immatriculer ma boîte, il m'a fallu 3 mois. Là, maintenant, en général, tu obtiens ton CABIS en moins d'une semaine. Donc, ça évolue quand même. Le cadre devient plus souple et ça évolue. Après, ce qui peut être un frein, c'est plutôt, effectivement, notre fiscalité qui est quand même la plus lourde de l'Europe, quoi.
Ça, combien ça, c'est à peu un près du brutto net, quoi, enfin en termes de fiscalité?
Grosso modo, tu vois, quelqu'un que tu vas payer 3000 euros net par mois, il va t'en coûter 70 000 à l'année, quoi, chargé. Donc c'est du simple double. C'est difficile d'absorber ça, il faut faire du chiffre. Hein. Donc ça, moi, je pense que c'est le frein le plus embêtant de la France.
Les charges sociales sur les salaires.
Ouais.
Parce que ton métier, c'est essentiellement du salaire que tu vends.
Ben c'est ça. Quand tu es sur du service, tu vends que du salaire. Tu vois, parce que on va te dire, bah oui, mais c'est le taux de TVA le plus bas d'Europe. Parce qu'en Suède, c'est 25%. Ouais, mais sur les salaires, je m'en sors. La TVA, c'est que quand tu consommes. Donc, à la limite, consomme moins. Enfin, alors que là, les salaires, tu es obligé de les sortir. Quoi. Enfin, tu vas pas dire au mec, je te paye moins parce que c'est trop cher. Tu vois ?
Trop de charges.
Ouais. Non, non, moi, je trouve que le vrai point négatif de la France, c'est la fiscalité.
Pour 100 euros de chiffre d'affaires, tu fais combien de résultats nets pour toi ? Enfin, tu vois, combien tu arrives à gagner, toi, sur 100 euros de chiffre d'affaires ?
Moi ou ma boîte ?
Bah, les deux. On va, ouais. On va découper parce que ça dépend si tu réinvestis, quoi.
C'est ça, exactement. Bah, la boîte, on va faire entre 17 et 19% de marge, quand les marges sur le secteur sont entre 3 et 7%.
Comme ça, c'est la marge commerciale, c'est pas le bénéfice.
Voilà, si, si, c'est les bénéfices, c'est les bides là.
D'accord.
Et après, moi, perso, bah, si je le laisse sur mon compte, ça va, mais si je le sors, je suis taxé à 30%. Donc voilà, et ça, c'est un vrai sujet en France. Quand t'as des patrons, tu vois, on va dire, ouais, mais il est parti avec un chèque de 6 millions d'euros. Ouais, mais en fait, en vrai, sur son compte, il a 4 millions.
Oui, bah ça déjà.
Bah ouais, mais c'est pas normal.
Donc
ça.
De 100 euros de chiffre d'affaires, t'arrives dans à les dégager, comptes de la boîte à 17.
Ouais.
Après, il y a l'IS.
C'est ça. Non, moi, je te parle après, vraiment.
Après, IS, ouais. D'accord. Donc, t'es à 17.
Ouais.
Donc, et sur les 17, bah, faut en enlever un tiers si tu veux te payer.
C'est ça.
Parce que tu te payes en dividendes comme beaucoup de patrons, j'imagine.
Comme tout le monde. Enfin, ça, t'en parleras plus à mon expert comptable. Moi, je... Ouais. Voilà, mais après, c'est chacun fait comme il veut. Mais vraiment, la fiscalité en France et le fait qu'elle soit fluctuante. Parce que ça, c'est pareil. À la limite, on te donne les règles du jeu. Tu les acceptes ou tu les acceptes pas. Personne ne t'oblige à créer en France. Mais le vrai sujet, c'est que c'est fluctuant. Un jour, ça va être tant, le lendemain, ça va être tant, et puis d'un coup, t'as l'abattement Fillon, on ne sait pas pourquoi, lui, il n'y a plus droit, et puis ça, machin, enfin... mais c'est l'horreur, enfin...
Bah surtout que toi, t'es au cœur des dispositifs de crédit d'impôt sur le ménage, etc., donc c'est un merdier sans nom, parce que ça... À chaque fois qu'il y a un nouveau ministre, il dit « Oh putain, j'ai une super idée !» Puis d'idée en idée, fouf.
Ouais, alors ça... on n'est pas là pour faire du France bashing, mais c'est vrai qu'il faudrait une certaine stabilité fiscale pour qu'on soit plus attractif.
Qu'ils se sentent pas obligés de mettre leur nom à chaque fois sur toute...
Bah, qu'on se sente pas, nous, obligés d'aller monter des coquilles vides au Luxembourg, quoi. Enfin, tu vois. Bah, j'ai pas de coquilles vides au Luxembourg. Hein. Mais, ouais, c'est ça que ça sous-entend, quand même. C'est que si tu veux vraiment t'en sortir... Moi, j'ai pas atteint des seuils qui nécessitent ces montages-là. Mais forcément, quand on te propose 30% de fiscalité contre 12,8%, je pense qu'il y a un moment donné où ton chauvinisme, il a atteint ses limites quand même.
Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand ta boîte fait de la marge,
ouais.
T'as passé une étape déjà, t'es bien. Mmh. Et après, soit tu te payes, soit tu laisses dans l'entreprise pour réinvestir.
C'est ça.
Et donc, si tu te payes, c'est la question, c'est comment j'épargne et comment j'investis. Mais ça, je crois que c'est pas trop tes préoccupations.
Non.
Parce que toi, t'as, jusqu'à aujourd'hui, quand t'as une boîte qui marche, comme beaucoup, bah, t'as envie de remettre pour voir jusqu'où ça
marche.
Nous,
en fait, elle est en autofinancement depuis 15 ans, notre boîte. C'est-à-dire que, une fois que j'ai tout payé, ce qui reste, c'est mon salaire. Et non pas l'inverse. Je dis pas, je veux 10 000 de salaire, et tant pis, on fera pas d'investissement, machin. Non. C'est d'abord, on investit tout ce sur quoi on a décidé d'investir parce que c'est une nécessité, et ce qui reste va constituer mon salaire. Donc j'ai pas un salaire fluctuant, enfin j'ai pas un salaire fixe en fait.
Fixe, ouais. Mmh. Ouais. Mais tu réinvestis ce que tu gagnes, tu le réinvestis dans ta boîte ou alors tu le places pour toi.
C'est un panachage, forcément, ouais. Parce que si tu mets tous tes œufs dans le même panier, c'est pas terrible. Mais oui, tu fais des placements perso, puis tu fais des placements d'entreprise, ouais.
Et comment tu gères
ça? Tu mets 2 millions dans une appli, par exemple.
Ouais, tu vois, c'est ça.
Voilà.
Ouais.
Non, mais c'est ça.
Donc, t'as pu, toi, en tant qu'entrepreneur, du coup, comment tu gères ton épargne personnelle puisque tu sais ce que c'est qu'une entreprise? Quand on épargne, en fait, pour beaucoup de gens, une épargne, c'est le livret A et l'assurance vie. Et ils se disent, bah, je mets de l'argent là, le banquier, il se débrouille, et puis à la fin, il m'en redonne un peu. Mais toi, tu sais que quand on place de l'argent, ce qui fait qu'on en gagne derrière, c'est qu'il y a des gens qui ont bossé entre les deux. Je dis souvent, votre épargne, elle vous rapporte autant que le travail que vous fournissez au boulot. Et il y a un peu cette... parce que il faut faire travailler des gens pour gagner de l'argent.
Alors après...
Alors comment tu vois l'épargne, toi, sachant que tu es patron?
Ben, quand t'es chef d'entreprise, tu as à ta disposition, parce que c'est à ta disposition, des gens très bienveillants qui s'appellent des banquiers privés et qui s'occupent de venir à toi et de te dire, voilà, votre épargne sur le livret A, ça vaut rien, l'assurance vie, c'est un pis-aller, sachez qu'il existe d'autres alternatives. Et que si t'es pas chef d'entreprise, personne va te les proposer, ces alternatives-là. Parce que les montants d'accès sont quand même assez élevés.
On t'a proposé quoi?
Bah, moi, par exemple, des placements en actions. Ça, c'est le plus commun, par exemple. Ou alors, des placements en immobilier pierre-papier, par exemple. Tu vois? Va parler de l'immobilier pierre-papier à ton voisin. Il va pas comprendre. Alors que tu parles de ça à n'importe quelle chambre d'entreprise, il sait de quoi on parle.
Voilà. Une SCPI, quoi.
Voilà, une SCPI, on te dit, bah voilà, plutôt que vos véhicules les acheter, bah vous les passez en leasing. Il y a des petits leviers comme ça qui font que, ben, t'es quand même un peu plus averti et un peu plus aguerri que le tout venant.
Et est-ce que tu te sers de ton épargne pour investir dans des projets dans lesquels tu crois, toi, par exemple, les mentorer des jeunes, etc., en disant, je lui file 15 000 et puis il va m'en faire 100 avec et je vais le pousser.
Alors moi, je mentore beaucoup, effectivement. Je mentore beaucoup, beaucoup trop peut-être. Mais j'ai pas encore passé le cap de me dire j'investis dans une boîte parce que je trouve que Business Angel, c'est pas mentor. C'est deux métiers différents.
Alors, c'est quoi mentor?
Alors, mentor, c'est plutôt, voilà, tu vas lui donner des conseils, tu vas lui dire, voilà, t'es sur une phase de croissance, bah, ce serait bien que, je sais pas, t'ailles faire une levée de fonds ou que t'ailles sur l'international. Bah, tu lui donnes des leviers activables, ou alors c'est carrément aux prémices, hein, en seed, en lui disant, voilà, bah, pour créer ta boîte, fais ci, ça, ça. Enfin, c'est ça, mentorer, c'est de dire, voilà le dispositif qui existe, voilà ce par quoi je suis passé. C'est du conseil. C'est grosso modo, c'est un peu prof, voilà, mais ça s'arrête là. Alors que Business Angel, c'est encore autre chose. Business Angel, tu vas exiger des performances en retour, tu vas exiger un retour sur investissement, et du coup, bah, tu vas peut-être un peu pressuriser pour que tes 15 000 de départ se deviennent 20 000, tu vois. Donc ça, j'ai pas encore passé ce cap-là. Mais ça, je pense que ce sera ma deuxième partie de vie. Quand j'aurai vendu mon entreprise, je pense que c'est ce que je ferai.
Plutôt que d'aller promener le chien et de prendre le thé.
Ouais, ou d'être affalé devant la télé 8 heures par jour, ouais.
Parce que tu dis, on a peut-être plus envie de pressurer, mais en même temps, une fois que t'as de l'argent. Entre nous, c'est pas rigolo, l'argent. Enfin, je veux dire, quand on empile des billets, c'est marrant, mais
alors,
c'est pas ça.
Alors, ça dépend combien de billets tu as.
Oui,
déjà.
Non.
Mais effectivement.
Une fois que t'as de quoi vivre, je veux
alors,
dire.
Une fois que t'as de quoi vivre et que t'as de quoi vivre.
T'as pas fait 3 côtes de bœuf par jour parce que t'as de l'argent, tu
vois. On est bien d'accord. Et moi, je suis entièrement d'accord avec ça. À partir du moment où tu t'es mis à l'abri, t'as mis à l'abri ta famille et éventuellement ton cercle proche, il y a un moment donné, être le plus riche du cimetière, ça sert à rien.
Donc tu peux investir en attendant d'autres formes de résultats.
Alors ce jour-là, moi je monterais plutôt une fondation, en fait. C'est-à-dire que
parce que c'est défiscalisé.
Pas du tout, pas du tout, parce que c'est très cher. Il faut déjà 200 000 euros d'apport pour une fondation. Non, mais parce que le retour sur investissement va plutôt porter sur des actes plutôt que sur du numéraire. Et je sais pas moi, je sais pas, je donne une idée comme ça, mais d'aller subventionner, de l'hébergement pour des femmes qui sont sous la coupe de violence de leur mari, bah tu en requiers pas un retour sur investissement numéraire. Tu te dis pas mon immeuble il va valoir tant dans 5 ans. Tu te dis surtout bah j'ai sauvé ces nanas là des coups qu'elles subissaient. Et c'est une autre forme de retour sur investissement.
Ouais, donc ça, c'est quelque chose dont tu penses pour une troisième partie de vie.
Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Bon, après, je te dis les femmes, mais ouais, après, ouais. Ça peut être les animaux à la SPA, j'en sais rien.
Et tu ne te verrais pas investir dans une entreprise pour qu'elle soit, qu'elle soit performante selon tes critères?
Si.
Des petites gymarelles.
Ouais, mais moi, j'ai pas un ego surdimensionné à me dire je veux des petites gymarelles partout, tu vois.
Je veux 2-3% de retour, histoire que ça vive, mais je veux que ça envoie des flammes en termes de participation.
Non, moi je serais plutôt du style business angel, genre, on sait que 15 000 euros pour une boîte débutante, ça peut changer le cours d'une vie. Moi je serais plutôt sur ça, en me disant, ils sont perdus, enfin, mais de me dire, allez, je vais investir des millions parce que derrière j'aurai des milliards. Si j'en suis là, c'est que je les ai déjà, les milliards, non?
Non, ce que je veux dire, c'est d'investir dans des entreprises dans lesquelles tu crois, et tu te dis, la rentabilité, c'est pas mon premier objectif. Je veux qu'elle vive par elle-même, parce qu'il faut que ce soit vivant, il faut que ce soit viable.
Alors ça n'existe pas. Le premier critère, c'est la renta. Hein. Les investisseurs vont pas sur des boîtes.
Oui, mais toi, justement. C'est ton business model de base.
C'est vrai.
Tu dis, je suis parti
Mais moi, je me suis mis la pression à moi-même et je me vois pas mettre la pression à quelqu'un en disant, tu sais, là, t'es pas bon. Là, faut modifier. C'est pas, c'est un truc, tu l'as ou tu l'as pas, en fait. C'est soit tu veux faire une boîte qui soit bien vertueuse, en économie circulaire, solidaire, enfin, tout ce que tu veux, mais personne doit te dire de le faire. Enfin, ou alors, c'est que tu fais du greenwashing.
Oui, oui, il faut trouver des gens qui... Business angel de ces gens-là, quoi.
C'est ça. Ouais. Après, s'ils ont besoin d'un coup de pouce parce qu'il va leur manquer 15 000 ou je sais pas, pourquoi pas. Mais moi, je serais jamais un investisseur qui investit des millions en disant « je veux des milliards à la sortie ».
De toute façon, c'est pas rigolo.
Bah, c'est pas mon moteur, surtout. Parce que sinon, il y aura longtemps que j'aurais revendu ma boîte. Si mon moteur, c'était la thune, je serais déjà millionnaire. Hein, donc,
Bah ça, c'est un peu le problème des modèles de start-up en France.
Oui.
C'est-à-dire que moi, ce qui me traumatise, c'est de dire, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de jeunes qui veulent créer leur boîte pour dire « je vais avoir une super idée, je suis intelligent, machin, pas de problème ». Et au final, je me ferai racheter pour 10 millions, 20 millions, j'en sais rien, par Google, par Amazon, par truc, par mûche. Et qu'est-ce que t'en penses, cette idée que de cette ambition de dire « mon ambition, c'est de monter une boîte pour qu'elle se fasse racheter ».
Alors, tu sais, quand t'as été prof un jour, t'es prof toujours. Donc moi, j'interviens quand même devant les jurys, Sciences Po, HEC, tout ça. Et souvent, je leur pose la question, je dis voilà, ok, c'était très bien, vous avez bien pitché, etc. Mais c'est quoi votre but? Ah bah, c'est de me faire racheter et d'être riche. Je dis très bien. Bah, vous savez quoi? Vous serez jamais riche. Parce qu'en fait, ça doit être la résultante, pas votre moteur.
Puis la résultante, c'est triste quand même.
Non, parce que
si ta boîte, elle marche, tu peux la pousser.
C'est ce que j'allais dire. Parce que la résultante, de toute façon, si ta boîte, elle est... avec tout ce qui va bien, de toute façon, elle vaudra cher. Donc, c'est la résultante. Mais si c'est le but, si c'est le moteur, bah, tu vas t'échiner, puis tu iras dans tous les murs, et puis tu te mettras une pression de dingue. Enfin, tu n'y arriveras jamais, en fait, en vrai.
Puis l'ambition de Google, ça n'a pas été de se faire racheter. Quand ils se sont lancés, c'était conquérir le monde.
Exactement.
C'est de se marrer.
C'est ça. Et puis, là, on est quand même sur une période où une espèce de bulle autour des startups où on survalorise des startups qui n'ont pas fait un euro de chiffre d'affaires, encore moins un euro de bénéfices. Bah ouais, mais ces jeunes-là, ça leur arrive à 25, 30 ans, ils vont faire quoi à 40, 50, 60, ils seront en déprime en fait, voire en dépression. Parce que d'ici là, ils vont pas avoir deux fois la martingale. Enfin, moi, je trouve que c'est pas leur rendre service, mais après, c'est mon point de vue, hein.
Ah, mais peut-être que les investisseurs, il y en a qui sont un peu bêtes, parce que moi, des fois, quand j'entends des jeunes qui me disent « Ouais, ma boîte, elle vaut 10 millions. » Ah, d'accord, comment tu calcules? Ah, bah, j'ai vendu un contrat, ça fait 500 000, j'ai 200 prospects, si j'en convertis 10%, ça fait 10 millions. Alors déjà, tu te dis comment des investisseurs peuvent bénir autant d'argent sur des jeunes qui on presse le nez et puis ça.
Ouais, c'est ça. Ouais, mais ils les mettent sous perfusion en fait, hein. Perfusion financière.
Oui, mais ils le reverront jamais. Enfin, il y en a beaucoup qui ne revoient jamais leur pognon, quoi.
Mais les investisseurs, je pense que pour beaucoup, ils savent que c'est à perte et ils se disent, bah c'est comme le jeu au casino en disant, je sais que je vais perdre, mais peut-être que je vais gagner. Ouais, et des fois, ils ont le truc qui les fait gagner.
Mais ils bousillent des cerveaux aussi. Alors déjà, ils vont perdre beaucoup. Et puis, ils bousillent des cerveaux, ils bousillent des vies. Parce
oui,
que ça dérègle.
Je crois que c'est pas leur préoccupation, hein.
Je veux dire, ça fausse complètement les ordres de grandeur, la réalité.
Ah non, mais ça fausse tout. Enfin, je veux dire, quand t'as un jeune qui a 25 ans et qui a 5 millions d'euros sur son compte, j'espère pour lui qu'il saura bien les placer. Parce qu'à 30, 35, 40 ans, mais le mec, il est SDF. Mais c'est ma main à couper. Et puis, dans sa tête, ça ira pas bien, parce que quand ça t'arrive à 25 ans, tout le monde t'a dit que t'étais le plus beau, le plus fort, etc. Je pense que tu développes des égos surdimensionnés. Et ça, bah, dès que tu retombes dans la vraie vie, ou que tu t'aperçois que, finalement, 2000 euros, non, c'est pas, tu claques pas dans la vraie vie 2000 euros dans une soirée, quoi.
Et puis, en plus, qu'est-ce que ça apporte?
Ça, après, c'est encore un autre débat, mais peut-être que quand ils le font...
On en revient à mes trois côtes de bœuf, quoi.
Voilà, mais t'en as pour qui claquer 2000 balles dans une soirée en boîte, c'est leur trip.
Ouais.
Et peut-être qu'à 30 ans, ce sera plus leur trip, mais s'ils le font, c'est qu'ils en requièrent certaines... je sais pas, ça leur fait plaisir. Et ça, moi, je juge pas ça. Moi, je m'inquiète pour ces jeunes-là, en me disant, les gars, apprenez à vendre avant de vous vendre, quoi.
Alors, qu'est-ce que tu conseilles aux jeunes qui voudraient se lancer?
Alors, les jeunes qui veulent se lancer, déjà, ils sauront que c'est pas qu'ils veulent se lancer, c'est qu'ils doivent se lancer, déjà. Et ce que je leur conseille, c'est écouter ce battement de cœur un peu plus fort que les autres. Allez-y, mais n'y allez pas n'importe comment. Donc déjà, allez-y accompagné. Donc vous avez des incubateurs, des réseaux, entreprendre, des réseaux, je sais pas quoi. Il y en a, mais partout, sur tout le territoire. Donc vous en choisissez un. Moi, j'ai pas de reco particulière à donner, mais vous en choisissez un. Et surtout, bah vous y allez et puis vous jouez le jeu du réseau, quoi. C'est-à-dire que vous allez prendre beaucoup, puis à un moment donné, il faut restituer. Et restituer, bah, c'est vous devenez mentor ou vous allez guider des jeunes qui avaient votre âge il y a 5 ans, et puis vous allez leur dire, bah moi, les échecs, c'était ça, les réussites, c'était ça, t'en fais ce que tu veux, mais en tout cas, t'es au courant. Voilà. Il y a un moment donné, il faut alimenter ce réseau.
Apprendre de ses erreurs, c'est bien, mais apprendre des erreurs des autres, c'est encore mieux.
Apprendre tout court, c'est bien.
Christelle, merci beaucoup. Et puis, bah, j'espère qu'on se reverra quand tu auras développé les nouveaux projets et éventuellement même une nouvelle dimension.
Avec plaisir. En tout cas, merci de l'invitation.